Génie sur Europe 1.
15h30, 18h, Laurent Ruquier.
Bonjour, bienvenue sur Europe 1. Heureux de vous retrouver pour ce vendredi en compagnie de Caroline Diamant, Isabelle Motreau, Gérard Miller, Yann Moix, Titoff et Jean-Marie Bigard.
C'est très bien équilibré.
Jean-Marie, à qui j'ai déjà confié une histoire envoyée par un auditeur, et vous me la transformez pour qu'elle soit drôle d'ici à la fin de l'émission.
Ah, bien sûr, mais il y a du boulot, hein. Elle est bien pourrie au départ, hein, mais je m'en occupe.
C'est comme la chirurgie esthétique, il devrait la raconter en début d'émission et à la fin qu'on voit la différence.
Qu'on a essayé, voilà. Il n'a pas voulu le faire.
Non, moi je vais dire le contraire, tu racontes d'abord la blague sous la forme drôle et après oui, tu nous montres,
oui,
voyez.
Oui. Le chemin parcouru.
Demandez-moi les choses
d'où
intelligentes.
Ça vient.
C'est pour ça que cette équipe est très bien composée, je voulais
pourquoi,
dire.
Pourquoi?
Parce qu'il y a vraiment l'humour, l'intelligence et la grâce, et c'est rare que ce soit aussi équilibré.
Tu oublies la modestie, hein, Gérard.
Monsieur Ruquier, je me permets de vous écrire afin de prendre rendez-vous avec mon psy. En effet, la secrétaire de ce dernier m'informe qu'il est soit en enregistrement pour votre émission, soit en tournage pour un documentaire de France 3. Certaines fois, il est également dans son restaurant en Ardèche ou en train de dispenser des cours à la Sorbonne. Difficile donc de rencontrer mon psy. Je ne suis pas prêt de guérir de ma paranoïa. En plus, il se prétend de gauche alors qu'il cumule 5 emplois. Chroniqueur, journaliste, restaurateur, professeur et occasionnellement psychanalyste. Il a donc 4 chômeurs à son actif qui doivent en plus le détester. C'est la même chose en ce qui vous concerne d'ailleurs, monsieur Ruquier, vous qui assurez les fonctions d'animateur radio, d'animateur télé, de scénariste, d'écrivain et d'imitateur.
C'est
pas ce qui te fait gagner ma vie.
C'est pas avec l'imitation et que tu gagnes non plus.
À ce rythme-là, on va finir par atteindre les 3 millions de chômeurs dans ce pays. C'est signé Julien. Ben alors, c'est un de vos patients.
Ben certainement. Ben alors donc, Julien, vous n'avez qu'à venir à 17h. Je crois qu'on a une petite pause ici. Ben, on fera une séance juste à côté pendant le journal.
Oui.
Ça
ne gêne
pas. Ben voilà.
Ah, pendant le journal, vous pouvez soigner un patient.
Oh bah oui, ouais. Franchement, oui. Un patient qui a autant d'humour, certainement.
Un grand bonjour à toute la bande. Nous sommes deux Rochelaises de passage à Paris. Elles sont où, Lucille et Natalia? Elles sont là-bas dans le fond. Elles ont l'air bien sympathiques et jolies. Adeptes de l'émission, il était impossible de ne pas faire un crochet par vos studios. Nous sommes toutefois déçus que Pierre Bédichoux, lui aussi va être déçu, ne soit pas présent aujourd'hui.
Parce qu'il y a de la jambe nue croisée très haut, là.
Étant de La Rochelle et ne possédant pas de poste de télévision Sony, nous aurions été ravis de le rencontrer, à défaut de pouvoir le voir derrière le petit écran. Pour nous consoler, il y a quand même Titoff. Qu'est-ce qu'il y a, Titoff?
Rien.
Il passe derrière Pierre.
Titoff, il a peur parce qu'il vient de tourner à La Rochelle.
Oui. Non, je n'ai peur de rien. Je ne sors jamais.
Pourtant, vous devez connaître Loulou, 83 ans.
Oui. Ah là, ça y est, tu recolles les morceaux là.
Bien, il est serveur dans une boîte de nuit.
Qui s'appelle la Côte de Maille.
Exactement.
Voilà.
Oui,
voilà.
Oui, oui, oui. Ah. J'étais en repérage pour le tournage. Il a bien fallu que je sorte un petit peu.
Nous avons eu la chance de le rencontrer le week-end dernier dans nos bars favoris. Et quel ne fut pas notre étonnement de le retrouver à la Côte de Maille, illustre symbole des bas-fonds rochelais, le seul nightclub où le patron alias Loulou, 83 ans, fait encore la pluie et le beau temps sur la vie nocturne. Alors, comment c'était?
Bah, tu sais, quand t'es un serveur de 83 ans, tu vois le reste de l'ambiance, quoi. Non, elle est incroyable comme endroit.
Et les deux jeunes femmes, tu les connais? Elles viennent demander des dommages et intérêts?
Je les ai croisées, elles m'ont dit, elles sont très organisées parce qu'elles m'avaient dit qu'elles seraient ici la semaine prochaine.
Elles ont un bébé dans les bras.
Et un avocat à côté, c'est normal?
Ce vendredi, vous
et
aurez...
C'est bizarre, quand j'étais bourré, je les avais trouvées beaucoup plus jolies qu'aujourd'hui.
Ce vendredi, vous aurez un fidèle auditeur qui vient exprès de Guyane pour assister à On va se gêner. Il s'appelle Tom. Il est où, Tom? C'est Vincent qui me signale. Bah, bonjour, Tom. Ouais, un gros bisou au petit Clément qui assiste pour la première fois à l'émission, mais qui l'écoute depuis déjà bien longtemps. C'est vous, le petit Clément? Et voilà.
Oh, qui est vilain.
Il fait 1m80, le petit Clément.
Mais oui.
Il n'osera pas le demander, mais il voudrait bien un bisou d'un des chroniqueurs.
Ah, Gérard, vas-y.
Gérard.
Ben, qui est quand même le plus beau des six.
Oui, c'est vrai.
Signé sa sœur, Camille, elle aussi dans le public. C'est qui, Camille? Ben voilà, alors,
bah
alors,
Gérard.
Gérard.
Non, je vais pas faire un bisou à ce grand dadais qui a de la barbe.
Vu l'estime que t'as de toi-même,
j'aurais du mal, oui.
Bah, Caroline, vous voulez pas aller faire un bisou, vous?
Si.
Ah, regardez, elle y va, regardez.
Fais gaffe de pas être aspirée si elle ouvre la bouche, hein.
Au téléphone, nous avons Sarah. Bonjour, Sarah.
Bonjour.
Qu'est-ce que vous voulez nous raconter, vous, Sarah?
Moi, je vais vous raconter... Je suis fan de Laurent Ruquier, de tout ce qu'il fait, donc de vous. Et tous les soirs, quand je rentre, je me fais les replays de l'émission Demande qu'à en rire.
Ah, ça, ça fait plaisir. Vous regardez, bah, c'est Jérémy Michalak maintenant qui anime l'émission.
Et vous êtes dans le jury. Et hier, je regarde et vous aviez un polo noir. Mais beau gosse, mais qu'est-ce qui s'est passé? C'est pas Cuba.
C'est vrai.
Vous êtes affûté. J'ai entendu que vous avez perdu 7 kilos.
C'est vrai, oui. C'est la boxe.
Mais ouais, et justement. Alors, deux choses. La première, c'est que mon petit frère est champion de France poids lourd, Naoufalouata, de boxe.
Oui.
Donc, si vous voulez prendre des cours à Lyon, n'hésitez pas.
Vous voulez me refiler votre petit frère?
Ben, petit grand frère. Hein.
Ah,
il est à 2 mètres, à 100 et quelques kilos.
Il est comme nous, votre petit frère?
Je te dis tout de suite, c'est lui qui décide des positions. Si tu peux plus t'asseoir pendant 4 jours, tu n'en auras pas de plainte. Hein.
Bon, vous remercie Sarah pour ce joli témoignage et on vous embrasse. Angélique est au téléphone aussi.
Allô, bonjour.
Bonjour. Heureuse de vous retrouver. On passe toujours un bon moment en votre compagnie. Je suis dans mon magasin. Quel genre de magasin?
Une supérette.
Une supérette. Quelle la marque?
Viveco.
Je connais pas ça, Viveco.
Viveco. Oui.
C'est où ça, Viveco?
Alors c'est à Saint-Mahieu, en centre-Bretagne.
Ah oui, on
et
va.
Là, on est 500 habitants.
Ouais. Heureusement qu'elle est là, la supérette, hein.
Eh ouais.
Avant, on allait au Familistère quand on était enfant.
Oula. Ah oui.
Pourquoi?
Dans quel pays?
Vous connaissez pas le Familistère?
Bien sûr, bien sûr.
Gérard.
Bon, c'était une petite supérette.
C'était comme Félix Potin?
Ouais.
Ah non, mais Félix Potin, c'est votre âge. Mais Familistère,
c'est le nôtre. C'est très
on a le même.
Moi, je suis beaucoup plus jeune.
Pas avec Gérard.
Le Familistère, vous souvenez, Yann Moix?
Non.
Non.
Vous voyez les vrais jeunes.
C'est la première fois que j'entends ça.
On allait chez COP.
On avait les petits coupons.
On allait à la ruche.
Ah, il y avait la ruche aussi.
La ruche. Chopie.
Et il y avait le Familistère.
Voilà. Voilà. Et chez COP, on avait les petits coupons.
Angélique, vous connaissez pas ça, le Familistère?
Ben non.
Vous connaissez rien, mais moi, je connais pas Viveco. Alors, c'est comment? Quel genre de supérette?
Ben, on fait un peu de tout, du dépôt de pain, c'est du dépannage surtout, des journaux, de la boucherie, de l'épicerie, des fruits, un peu de tout.
Il n'y a pas grand monde, non?
Oh, bah.
Mon avis, vaut mieux pas
prendre
le poisson.
Ouvert, c'est ouvert samedi, dimanche.
Eh oui.
Et voilà, et on se dépanne où? Eh ben, à la supérette. Voilà.
Chez Vivolta. Comment vous dites?
Chez Viveco.
Viveco. Merci, Angélique, on vous embrasse. Ben, d'autres mails également. Dans un instant. Un mail qui me dit: Gérard Miller parle beaucoup trop de sa fille. Je comprends sa fierté, mais il ne faut pas non plus exagérer, Gérard.
C'est vrai.
Hein? Oh, monsieur, faut être...
Elle est rentrée à l'école, là.
Ah non, mais attendez, oui, il faut être gâteux de sa petite
mère. Oui, mais ça, c'est vrai, normal.
Mais sinon, elle parle combien de langues, ta fille?
3.
C'est vrai?
Ouais. Ah ouais? Bah, ouais. Elle parle français couramment, elle parle anglais maintenant, et elle commence à baragouiner un peu en italien.
Avec le prétentieux, ça fait 4 langues.
Bonjour à toute l'équipe d'On va se gêner. Je vous écris de l'hôtel Le Pinarello. Nous passons un magnifique séjour en Corse grâce à Europe 1. En revanche, je suis assez déçu parce qu'il n'y a ni flamant rose, ni vue sur la Tour Eiffel. Merci pour ce séjour. Si Titoff est autour de la table, dites-lui que le Rouf est un restaurant délicieux.
Je n'ai plus le droit de le dire. Je me suis fait engueuler l'année dernière. Mais c'est vrai que c'est quand même le meilleur restaurant de poisson de...
Si tu pouvais le dire, tu dirais ça.
Je dirais ça, oui.
Ça fait plusieurs fois que vous plaisantez sur le Canigou, qui a un nom de bouffe pour chien. C'est vrai qu'on offre en ce moment un séjour dans un hôtel avec vue sur le mont Canigou et à chaque fois je fais bêtement waf waf. Mais en fait, apprenez que c'est le contraire, nous dit un auditeur. Le Canigou, qui veut dire en catalan le chien, s'appelle comme ça parce qu'il ressemble à un chien couché. Mmh. Et c'est la nourriture qui porte le même nom que le mont Canigou et non pas à l'inverse.
Bah, on se doute.
Bah oui,
ça n'empêche pas que ça nous fasse penser.
On n'a pas pensé qu'il
c'est
avait...
un peu comme le Clémenceau, si tu veux, qui porte le nom.
La Tour Eiffel, c'est pareil. On ne sait pas si c'est la tour qui porte le nom du mec ou si c'est le mec.
C'est la montagne qui ressemble à un chien, c'est ce qu'on veut vous dire, quoi. Vous saviez ça,
Par exemple, Europe 1, si vous prenez Europe 1, par exemple, la radio, vous êtes d'accord que c'est un nom qui vient de l'Europe, c'est pas l'inverse.
Ouais, comme quoi, c'est pas facile d'être drôle. Hein.
Non, c'est pas facile d'être drôle lorsque les camarades vous soutiennent pas.
Elle va pas se barrer tous les jours, la petite. Hein.
Non, lorsque les camarades vous soutiennent pas. C'est
ça lui laisse du temps pour apprendre l'italien.
Ça, c'est quand on est lâché par ses copains, tu sais, ça, Pierre. Quand on essaye d'être drôle et puis on le voit, regarder ailleurs.
Où est-ce qu'il y a un Pierre ici, Gérard Miller ?
J'ai dit Pierre ? Ah ouais. Oui. C'était de l'humour. Oui.
Ah, c'est Alzheimer qui commence.
C'est
hein.
Qui commence fort. Oui,
ça fait peur. Hein, quand dommage, même. Hein. J'ai aussi un joli mail de Catherine qui me dit « Pouvez-vous envoyer un petit coucou à ma maman qui va avoir besoin de soutien puisqu'elle commence radiothérapie et chimiothérapie dans quelques jours et grâce à vous, eh bien, elle sourit tous les après-midi. S'il vous plaît, appelez-la ou faites-lui un coucou dans votre émission. Dites-lui qu'elle va guérir. Et évidemment, on l'adore, on la soutient. Continuez à la faire rire. Et si Caroline Diamant est près de vous, peut-être peut-elle lui dire deux ou trois mots de yiddish que ma mère pratique parfaitement pour agrémenter le message.
Alors, qu'est-ce que je peux lui dire en yiddish
Je savais qu'elle était juive.
Allez, c'est bientôt, voilà, Agitur, voilà.
Quoi
bah, c'est bientôt la bonne année.
Ouais. Gérard.
Ah, moi, je ne sais pas parler, je connais que Yiddish Mama, qui me chantait ma mère, qui est une chanson sublime. Mais comme
oui, mais qui est un peu triste. Alors, si la dame a un peu le cafard déjà, ouais. Je pense que si tu lui chantes à Yiddish Mama.
Alors, on chante la danse des canards en yiddish, tu connais ça.
Allez-y.
Non, je la connais en allemand.
C'est la danse. C'est pas tout à fait pareil.
Non, c'est le pas de loi, ça.
Joli. Bonjour, Michel Platini n'a jamais chanté la Marseillaise. Il disait que c'était un hymne violent et je n'ai jamais entendu quelqu'un le lui reprocher. Alors je ne vois pas pourquoi on obligerait les autres footballeurs voilà. À chanter cet hymne aujourd'hui.
Oui. Bah oui, mais alors dans ce cas-là, il faut changer les paroles. C'est vrai, les paroles elles sont très très brutales de la Marseillaise. Elles ne sont plus du tout d'actualité. Il faudrait les changer. Je peux m'en occuper si vous voulez. Je vais me mettre là-dessus dimanche et puis je vais vous chanter un truc cool, doux, tranquille et fort en même temps.
La Marseillaise façon Bigard, je suis preneur moi.
Ouais. Écoute, je vais y travailler alors.
Il a du boulot. Hein.
Il y a un petit peu de boulot, mais mais c'est une chanson guerrière absolument insupportable.
La musique est faite.
De proposer que le sang des autres soit impur, c'est absolument tout ce qu'on.
Qu'ils abreuvent nos sillons surtout.
Et qu'ils abreuvent nos sillons.
Tu comptes remplacer le sang par un peu de pisse et de merde.
Sillon, ça va être remplacé par Fion, je pense.
Ouais. Il y a des chances. Oh, crée tes rimes. Hein.
Non, je vais travailler dessus. Je vais vous faire un truc bien que ce sera entre la danse des canards et en même temps qui sera assez glorieux.
Bonjour à tous. Merci pour vos émissions, Medina Serra. Vos émissions nous font du bien. Vous m'avez manqué pendant l'été. Et grâce à vous, j'ai tout de même découvert, car je ne le connaissais pas, grâce au best-of, l'humour du formidable Jean-Yann. C'est vrai que ça a été une époque évidemment formidable. Oui. Les 6 ou 8 mois où on a eu cette chance et cet honneur d'avoir Jean-Yann autour de cette équipe. Et puisque cette demoiselle manifestement a découvert Jean-Yann grâce à nous et on en est fiers, je vous propose de découvrir Jean-Yann, chanteur. On passe trop rarement des chansons de Jean-Yann sur Europe 1.
Nouvelle saison, nouveau jeu, nouvelle rubrique. Qui a le mieux bossé?
Attention, pour l'instant, c'est Jérôme Bonaldi qui a le plus de fois gagné notre nouvelle séquence Qui a le mieux bossé. Yann Moix, vous ne l'avez pas encore emporté. C'est vous qui commencez aujourd'hui. Attention, Yann, que se passe-t-il ce soir à Helsinki?
J'en sais rien. C'est du sport encore ou pas?
C'est du sport.
Laurent, vous savez très bien que je ne lis jamais les pages sportives.
Eh bien oui, mais ce soir à Helsinki, c'est le match de foot Finlande-France. Vous êtes éliminé, Yann Moix.
Vous m'éliminez à chaque fois sur le sport.
Ah bah non, écoutez, fallait savoir.
Sujet,
Gérard Miller, comment s'appelle la forêt terrible où a eu lieu ce quadruple assassinat dont tout le monde parle depuis hier?
Elle a un surnom depuis hier, c'est la forêt sanglante. Toute la population autour l'appelle comme ça.
Oui, mais ce n'est pas le nom de la forêt.
Non, c'est vrai.
C'est la forêt de Chevaline, Gérard Miller. Vous êtes éliminé. Je vous rappelle que vous êtes censé réviser l'actualité, tous. Isabelle Motreau, Mireille Mathieu auraient été censurées dans ses propos que la presse a repris à propos de ces Russes, chanteuses russes, qui sont en camp de travail pour avoir offensé Vladimir Poutine. Mais quel est le nom de ces chanteuses russes?
Les Poussiriotes.
Bravo, Isabelle Motreau.
C'est facile.
Voilà, ça devrait être facile pour vous, Titoff. À Marseille.
Oui, 20 morts dans l'année.
Le Premier ministre Jean-Marc Ayrault a annoncé un renfort
de 105.
Combien?
105 policiers et gendarmes.
205,
j'ai dit.
Il a dit 105.
Il est éliminé.
Vous êtes éliminé.
205.
J'ai 105.
Mais non, parce que j'ai dit la première fois. T'as dit
un renfort de 105. Un renfort de 105. Il y a 205.
Il a raison, Jean-Marie.
Ah ouais, phonétiquement, il a donné la bonne réponse, monsieur Kitter.
Il a deux points.
Et en plus, c'est pas terminé. Voilà.
Je vous l'accorde, mais.
Un renfort de 105.
Mais c'est bien parce que j'aime Marseille. Hein. Jean-Marie Bigard.
Une question sur 3.
Non. Quel âge a la doyenne des prostituées
Ah ben, tu devrais savoir.
Sur, tombe sur moi.
Quel âge a la doyenne des prostituées de Nancy, relaxée hier grâce au soutien de tous les habitants de son quartier?
Ben, c'est Ghislaine, je
non,
le sais.
Elle s'appelle Béatrice.
Oui, ben, c'est ça, mais moi je l'appelle Ghislaine en privé. Et donc, ça, c'est une femme qui a 87 ans.
Non, 58 ans, quand même. Non. La doyenne.
C'est parce qu'il m'a mal soufflé, là, le petit œuf. Il me fait des gestes avec les mains. Et quand il a eu fini de faire les gestes, elle avait 158 ans. Donc,
Johnny Hallyday confirme qu'il sera en studio lundi pour enregistrer un duo avec...
Céline Dion.
Très bien, vous restez avec nous, chère Caroline Diamant. Isabelle Motreau est toujours dans la course. Isabelle Motreau, qui a-t-on vu hier voler à bord d'un ULM avec des grues?
Alors, c'est facile.
C'est
ça.
Nicolas Hulot.
Non,
c'était Poutine.
Poutine.
C'était Vladimir Poutine, on en a parlé en plus.
Que dans la Russie,
on
en
a parlé
aujourd'hui.
Hier.
On peut récupérer la question.
Et on a la photo, hein. Ça y est, il l'a vraiment fait. Hein.
Il avait le nez en le fauné ou
non,
pas?
Non, il n'avait pas mis le bec. Il reste donc Caroline et Titoff hein, pour l'instant. C'est un... Qu'est-ce qu'il y a, Titoff?
Il essaye de regarder.
Je m'étire un peu, je fais du stretching.
Le président de la République, François Hollande.
Oui, alors François Hollande.
Et son premier ministre, Jean-Marc Ayrault, font face à une multiplication des critique. Mm-hmm. Ça donne un titre dans le Figaro qui est l'exécutif au défi du Hollande. Et là, un terme anglo-saxon qui devient très très à la mode est expliqué par le Figaro qui nous explique que le président de la République est victime de... C'est un mot anglais.
Ox.
De quoi?
Ox.
Non. Mais non, et il est victime
rumeur.
De...
De cabale.
Non plus. De...
Bashing.
Bashing.
De bashing. Bonne réponse.
Voilà, est-ce que je peux reprendre cette réponse
non.
à la place
Explique
la...
qu'est-ce que c'est que le bashing.
Bah, c'est, oui. voilà, c'est comme des claques dans la gueule. Enfin, c'est une façon de taper sans arrêt sur la même personne.
Le bashing est une nouvelle activité médiatique consistant à s'acharner sur une personnalité de façon obstinée. Voilà ce que c'est que le bashing.
J'ai connu ça, moi.
Vous avez connu le bashing.
Et comme,
on en dira pas
gens,
plus.
Comme tous les gens qui ont connu le bashing, ils se taisent sur cette expérience.
Mesdames et messieurs, Caroline Diamant est la gagnante du
bravo.
Jour.
Oh,
bravo.
Là, il faut lui poser la question.
Il ne reste qu'elle par élimination.
Alors qu'est-ce qu'elle a gagné?
Il y a des beaux cadeaux aujourd'hui. Hein. Alors... Regardez ce livre de Nicolas Bavrez. Réveillez-vous, il est historien et économiste.
Je peux le prendre?
Et il trouve que les Français se sont installés dans le déni depuis plus de 3 décennies. Il leur conseille de se réveiller. La psychanalyse pour les nuls.
Ah bah
ok,
voilà.
Gérard, tiens, prends-le.
L'Armada fête le Saint Beaujolais. Un livre dont j'ai même pas ouvert.
Oui, mais il est tout petit, l'avantage, ça doit se lire vite.
L'histoire de France vue par les peintres, un très joli livre.
Ça, par contre, c'est bien. Ouais.
Publié par Flammarion, c'est Dimitri Casali et Christophe Beyler, avec évidemment en couverture cette superbe toile du sacre de Napoléon, c'est Eugène Delacroix hein, qui a fait. Ben, il y a d'autres tableaux très très célèbres. L'histoire de France.
C'est un tableau de David.
David?
Oui.
J'ai
oui,
dit Delacroix.
Oui, moi je pensais que
David
c'était Delacroix.
Un tableau truqué
aussi.
Qui plus est. Oui, parce qu'il y a la mère de l'empereur qui assiste alors qu'elle n'était pas là.
C'est vrai. Bravo, merci d'avoir rectifié. Mais c'est vrai qu'ils travaillaient souvent ensemble. Hein.
Oui, oui, oui. Allez, Puis ça commence par D.
La vie de Bohème, ou plutôt même l'invention de la vie de Bohème aux éditions Cercle d'Art. C'est Luc Ferry qui signe ce livre, l'invention de la vie de Bohème. Et regardez, il l'a envoyé à Europe 1 pour Jacques Pradel. C'est dédicacé par Luc Ferry pour Jacques Pradel.
Il est
ça vous fera
là
non, il est à RTL est... maintenant. Alors ça vous fera un souvenir, Caroline.
Un collecteur.
Je voudrais, si vous voulez bien, revenir quand même un peu sur la doyenne des prostituées de Nancy,
oui.
parce que c'est une belle histoire.
Très belle.
Ah, en général, oui. Hein,
c'est... non, non, mais je vous jure que c'est vrai. Elle a 58 ans. Elle est prostituée depuis 1975. Il y a même la rue, hein, pour ceux qui ne connaîtraient pas à Nancy. On nous explique tout dans Le Parisien ce matin, puisque Béatrice a été en fait, comment dire, dénoncée par quelqu'un pour racolage. Une plainte a été déposée contre elle pour racolage. Une dénonciation anonyme. Et elle fait, on va dire, une partie des figures de la vieille ville de Nancy. Elle a été prise en photo par des policiers pendant 2 jours. On la voit assise sur une chaise devant chez elle, plongée dans des magazines, croisant, décroisant ses jambes nues. « On vous voit avec une jupe courte et un décolleté plongeant », a dit la juge. « Mais après tout, je connais beaucoup de gens qui portent des jupes plus courtes, à même ironisé la juge du tribunal. Elle était plutôt sympa, la présidente du tribunal. Hein. Ben oui. Ces photos me laissent perplexe quant à la notion de racolage. Et le parquet, qui est pourtant à l'origine des poursuites, s'est offusqué du caractère odieux de cette plainte anonyme. La procédure judiciaire contre Béatrice, la doyenne des prostituées de Nancy, a même suscité, c'est ça qui est sympathique, une campagne spontanée de soutien. L'avocat de Béatrice, la prostituée de 58 ans, a même brandi une pétition. Une centaine d'habitants du quartier, tous identifiés, ça me fait marrer, s'est constitué et ont volé au secours de la prostituée, commerçant, cafetier, restaurateur, directeur de la MJC, c'est sa femme qui va être contente, tous clament leur attachement à Béatrice, la pute du quartier.
Très sympa.
Bah, après Dédé la Saumure, on a Dédé Lation.
Non mais c'est sympathique quand même.
Non mais moi ce qui m'épate là-dedans, c'est comment la procédure elle a pu être engagée seulement, qui tout d'un coup le parquet a quand même décidé sur une lettre anonyme d'engager une procédure.
Ouais.
Comment le parquet elle a pu engager cette procédure?
Assis devant chez toi quand t'es dans la rue sur une chaise, sur le trottoir, avec une jupe courte et un décolleté plongeant.
Quand même.
Et que t'as épongé tout le quartier depuis 35 ans.
Non, mais ce qui est étrange, y compris le directeur de la MJC.
Ouais.
Non,
c'est quand même
ce
très bizarre.
Dommage.
Non, mais elle est
c'est
là en porteur qu'elle depuis 1975. Ça doit mettre la puce à l'oreille quand même.
Pour les jeunes de Nancy qui connaîtraient pas, c'est rue de la Source. Non, mais c'est vrai parce que le Parisien nous donne même l'adresse de la rue. C'est quand même formidable. C'est-à-dire qu'elle a plus besoin de faire de racolage. Maintenant, elle a carrément une demi-page de publicité. Dans le Parisien. Si vous voulez voir la plus vieille pute de Nancy, c'est rue de la Source. C'est quand même extraordinaire.
Oui, mais elle est gentille d'ailleurs.
Ouais.
Moi, j'ai de l'affection pour Béatrice. Je l'aime bien. Je l'embrasse si elle nous entend.
Moi, je doute que ce soit. Parce que je trouve 58 ans, c'est jeune.
Oui, c'est jeune.
Je crois pas que ce soit la plus vieille pute, moi.
Bah, non. De Nancy, on a dit.
Oh, mais même à Nancy.
Peut-être Nancy, un 33.
On peut lancer un appel. Putes, si vous êtes pute à Nancy et que vous avez plus de 58 ans, vous avez gagné. Qu'est-ce que vous avez comme autre
mais
cadeau?
Dites pas pute, ça m'écorche. Quand vous dites pute, dites prostituée.
Laurent, je ne dis jamais pute. Là, j'ai repris le mot. Je suis
moi, j'ai l'impression que ça. Ah non, si, vous voyez, je vous dis, c'est peut-être même la plus jeune.
Vous vous souvenez de cette brève de comptoir? Pute, c'est le plus vieux métier du monde. Alors t'imagines, vieille pute.
En tout cas, c'est une belle histoire. Et nous aussi, on apporte notre soutien, évidemment, à Béatrice.
Béatrice, bien sûr.
Ah, vous êtes tous passés par Nancy en tournée.
Non, pas. Ça fait un moment.
C'est con que Pierre Bénichou soit pas là.
Ouais. Ah bah c'est sûr qu'il...
Oui, il aurait sûrement une théorie sur l'âge des prostituées de Nancy.
Allez, on se retrouve après les titres de 16h.
Europe 1,
on va se gêner.
Gérard Miller, Caroline Diamant, Yann Wax, Isabelle Motreau, Titoff, Caroline Diamant.
Oui, monsieur Ruquier, bonjour.
C'est la plus vieille de l'équipe.
Oh. Et Laurent, le public est...
Et Jean-Marie Bigard. Oui, Yann Moix.
Je trouve que le public aujourd'hui est déchaîné. Ah, je ne sais pas ce qu'ils ont. Je ne sais pas ce qu'ils ont, il y a un truc.
On a l'impression qu'on fait l'émission dans un calme absolu. Je pense qu'ils ont été envoyés par RTL aujourd'hui. Ah non, c'est du bashing.
Ah oui, du bashing.
Au téléphone, Nathalie et Raphaël. Bonjour, Nathalie.
Bonjour, Laurent.
Eh ben, je ne vous ai pas dit bonjour, Raphaël.
Ah, pardon, excusez-moi.
Ah, ouais, attention, chacun son tour. Hein. Vous êtes à Cholet, c'est normal. C'était évidemment un bonjour dans un mouchoir que vous nous avez fait. Nathalie est à la Cap de Nac. Ça, je ne sais pas où c'est, Cap de Nac.
Alors, Cap de Nac, c'est dans le Lot, Laurent.
Ah, très... Oh, il y a le petit accent du Lot.
Alors, non, ne recommencez pas parce que je suis passée à l'antenne l'autre jour et Pierre Bénichou m'a comparé à Fernandel.
Il y a un accent à Cholet, Raphaël?
Non, pas trop, non. L'accent vendéen, peut-être un peu, mais sinon, non.
Et faites quoi, vous, là-bas, alors?
Alors, moi, je suis travailleur indépendant, je m'occupe de gérer les actifs financiers de mes clients, voilà.
Ah oui, quand même, c'est très sérieux, ça, alors.
Oui, enfin bon...
Bah oui.
En même temps, c'est pas ton pognon, donc tu peux prendre des risques, quoi, c'est bon.
Et en ce moment,
oui, mais plus mes clients gagnent, plus je gagne, donc j'ai plutôt intérêt à leur faire gagner un peu d'argent.
Et en ce moment, c'est plutôt difficile, j'imagine.
Bah, je dirais que oui et non, parce que finalement, ça permet de, on va dire, de singulariser à partir du moment où on a des bons résultats. Donc, je dirais que plus c'est difficile, plus c'est...
Bon, on va reprendre Maïté, hein.
C'est Nathalie.
Ah, pardon.
C'est pas Maïté. Dans le Lot. Nathalie, Raphaël, vous allez peut-être partir pour le mont Canigou.
Eh ben oui, moi, ça
le golf de Saint-Cyprien vous attend, le domaine de Saint-Cyprien Golf and Resort, pour être très précis, et le le fameux hôtel, le Mât d'Huston. Un week-end pour deux personnes en formule petit déjeuner, 48 chambres au Mât d'Huston, un séjour sous le signe du soleil et du sport. Mais pour ça, Nathalie et Raphaël, il faut me dire qui sera reçu samedi à l'Élysée par François Hollande pour être décoré de la Légion d'honneur.
Camille Muffat peut-être et Yannick Agnel ?
Ah non, ils sont chez moi, non, on n'est pas couché samedi soir en revanche, Camille Muffat et Yannick Agnel. Mais non, oui.
C'est facile.
Ouais, c'est facile.
Surtout si on a internet.
Ah, je vais vous aider, c'est pas aujourd'hui, c'est demain, mais en revanche c'est pas yesterday.
Oh non, bah vous avez qu'à l'heure d'aller l'arrêter trop là.
Ah, c'est un des Beatles ?
Non, sans rire.
Ce serait pas John Lennon, par exemple ?
Ah non, pas John Lennon, Paul McCartney, Paul McCartney.
Bonne réponse de Nathalie, c'est Paul McCartney. Yes.
Génial, merci.
Mais alors là, vous avez gagné à une seule condition, Nathalie, c'est que vous chantiez Yesterday.
Ah non, ça, je peux pas.
Ah bah si, non, attendez. Là, je vous ai vachement aidé.
Ouais.
Si vous chantez pas Yesterday, alors vous partez pas au Mât d'Huston. Hein, ça, alors là.
Juste, juste, allez, on vous aide. Le premier mot, Yesterday. Voilà. Parce que. Voilà, ça va.
La chanson n'est pas arrivée jusque dans le Lot, hein, manifestement.
Si.
Jean-Marie, vous savez la chanter.
Bah,
vous...
Bien sûr, bah, je parle couramment anglais. Allez. Oui, moi, je. Yesterday. Je le fais aussi bien que dans le Lot. Hein.
C'est vrai.
Qui connaît les paroles?
Yesterday, all my troubles seem so far away.
Bah, comment veux-tu que je retienne un truc pareil?
Ça, c'est autre chose.
Vous pensez que François Hollande va chanter avec Paul McCartney?
Oui, mais il va plutôt chanter Help, lui.
Help!
Help!
It's been a hard day's night. I've been a working.
Hey Jude.
En fait, tu connais les titres.
Et à Matignon, ils vont inviter un guitariste.
Je ne sais chanter que les titres. D'accord ? Vous voulez que je vous en fasse une autre ?
Oui. Allez.
Allez.
Upladi, Uplada.
Et le. Magosan.
Yellow Submarine. Ouais, je connais si bien. Michel.
Ma
non, je connais que le titre.
Mais non.
Raphaël, on va vous offrir des petits cadeaux de consolation, d'accord?
Ah ouais, c'est très gentil.
Je sais pas, il y a bien quelqu'un qui va se dévouer pour offrir des places. Tiens, vous allez, on vous offre des places pour la rue de la Source à Nancy, Raphaël.
Voilà.
D'accord?
Avec plaisir.
Et
bon,
Nathalie,
bon pour un orgasme.
Nathalie, vous partez pour le Mont Canigou. Aujourd'hui, Najat Vallaud-Belkacem, la porte-parole du gouvernement et ministre des droits des femmes, ainsi que Madame Dominique Bertinotti, qui elle est ministre de la Famille, vont se rendre dans une crèche, la crèche Bourdarias à Saint-Ouen, en Seine-Saint-Denis. Mais pourquoi ont-elles choisi de rendre visite à cette crèche ?
Une crèche qui est contre les genres, je crois.
C'est-à-dire
qu'une crèche qui fait en sorte que les enfants ne jouent pas au tank et que les filles ne jouent pas à la poupée.
Que les garçons ne jouent pas au tank.
Les garçons jouent pas à la poupée. Ils veulent que les garçons jouent un peu à la poupée et que les filles jouent un peu au tank.
Non, ils veulent l'égalité des sexes.
Oui. Ce qui est absurde, il y a des généticiens comme Stéphane Pinker qui montrent que malheureusement, la culture est souvent moins importante que la nature et que spontanément, sans la moindre éducation préalable, les jeunes garçons vont spontanément vers les habits de cow-boy et les filles vont spontanément jouer à la poupée. Et que la nature...
Il y a des habits de cow-boy. Hein. On a prouvé que lorsqu'il n'y avait pas d'habits de cow-boy, les garçons n'y allaient pas.
Oui, mais lorsqu'il y a des habits de cow-boy...
Et on a prouvé qu'il n'y avait pas de poupée, elles n'y allaient pas non plus.
C'est
si tu retires les jouets, t'es complètement paumé.
Cette idée de déféminiser les jeunes filles, les petites filles, et de démasculiniser les petits garçons est complètement débile.
Non.
Je m'insurge complètement contre ce genre de foutaise.
Ce qui est intelligent, c'est que les puéricultrices qui ont été filmées et qui ensuite ont regardé les images se sont rendues compte que c'était débile de dire à un petit garçon tu peux ne pleure pas, t'es un homme fort, t'es un cow-boy, ça c'est débile. Et ça c'est vrai que c'est
pas utile de le dire. On ne force aucun enfant, disent-ils, dans cette crèche. On leur donne le choix entre l'aspirateur et le pistolet. Un garçon, il peut très bien avoir envie de jouer avec l'aspirateur.
Ouais, mais moi je comprends qu'on joue avec un pistolet, mais avec un aspirateur. Personne n'a envie de jouer avec un aspirateur.
C'est pas faux en même temps.
C'est pas de même nature. L'aspirateur, c'est un truc ménager, donc ça peut être fait par n'importe qui. Mais entre une poupée.
Général, enfin, c'est plus les femmes qui le font en principe. Hein.
J'ai rarement vu qu'on offre des aspirateurs aux petits garçons.
Naturellement, le font naturellement.
Elles le font tellement naturellement que si elles le font pas, c'est deux claques dans la gueule aussi.
Ça fait 3000 ans que les femmes vont vers les aspirateurs. Mais oui, pense bien que ça veut dire quelque chose.
Moi, t'en mets un dans une pièce, je vais aspirer direct.
Ils doivent s'habiller, ils s'habillent en garçon et en fille, ou alors là aussi ils échangent.
Ah non, non, non. Ah bah ça existe aussi. Je sais plus dans quel pays il y a une crèche où effectivement on habille les petites filles en petits garçons et les petits garçons en petites filles.
Il y avait un couple comme ça aussi qui avait décidé de ne pas fixer le sexe de leur enfant avant un certain âge pour qu'il ait la liberté de choisir.
Qu'est-ce qui s'est passé alors?
Bah, on, il n'est pas encore arrivé à cet âge-là, mais à mon avis, il y aura quelques dégâts.
Il ne voulait pas connaître le sexe du tout. Il l'avait avec des gants de boxe et puis il tournait la tête.
Bon, vous trouvez ça con alors?
Je vais dire, les recherches des derniers, enfin les dernières recherches en génétique, notamment un livre formidable qui s'appelle Le fonctionnement de l'esprit humain de Steven Pinker, où il explique bien que la différence des genres existe de manière strictement naturelle et que la culture ne peut rien y faire.
Vous, on vous a donné trop de livres, par exemple, quand vous étiez enfant.
Mais qu'est-ce que ça veut dire, la différence des genres?
Eh bien, qu'il y a des hommes et des femmes et qu'on ne peut pas les confondre.
Non, enfin, la génétique n'a jamais prouvé ça. La génétique n'a jamais prouvé que les petits garçons allaient vers les rôles de cow-boy. C'est évident. À part
Pinker
ça, qu'il y a une différence
dit,
des sexes. Et c'est évident aussi que la société a induit énormément de choses.
Pas énormément.
Voilà, moi, je vais vous donner mon exemple à moi. Vous connaissez mon caractère. Eh bien, j'étais le petit garçon le plus câlin des quatre. J'étais câlin comme ma mère disait. Je n'ai jamais vu un enfant aussi câlin, aussi gentil.
Moi, j'ai toujours pensé que vous étiez un peu pédé.
Et aussi émotif, mais sûrement.
Non, mais ça, toi, il n'y a aucun doute.
Sûrement, faudrait que je commence avec une petite bite, peut-être. Parce que je ne me sens pas de prendre un gros fromage le premier jour.
Isabelle.
Non mais de fait les dernières études qui ont été faites sur le genre, parce que c'est quelque chose qui intéresse énormément les gens de droite, de gauche, les hommes, les femmes et tout le monde en ce moment, les dernières études qui ont été faites prouvent qu'en effet il n'y a absolument aucune différence de nature entre les hommes et les femmes. Alors que
il y en a raison.
La seule différence qu'il y a, c'est des choses d'ordre purement génétique et sexuel.
Ah, d'accord. Totalement faux.
Il y en a raison. Ensuite... Moi, par exemple, j'habite dans le Marais, mais c'est vrai, les garçons adorent s'habiller en cow-boy. Il a raison.
Non. C'est faux.
Bon, vous n'êtes pas d'accord, d'accord, Gérard. Tranchez.
Je tranche, moi je serai plus nuancé d'un côté ou de l'autre. Je pense que la génétique n'explique absolument pas le destin des êtres humains.
Tout le monde vous trouve très nuancé aussi, Gérard.
Non, bien sûr, ça n'explique pas le destin.
Voilà, c'est
non,
tout.
Non, on n'est pas prédéfini par la génétique. Simplement, les genres sont génétiquement disjoints.
Après, je crois qu'il y a des différences des sexes, d'accord.
Bien sûr,
mais pas vers les...
La culture a son importance, mais dans une proportion bien moindre que ce qu'on imaginait encore il y a 20 ans. C'est pas 50-50, c'est 80-20.
Oui,
voilà,
mais il y a 20 quand même.
Il y a 20 quand même.
Mais c'est pour ça qu'on est libre. Avant, on disait justement, les femmes
sont naturellement... Avant 1975, à l'époque où...
Moi, je vous propose un 75-25, si ça vous va.
Je suis pour un 50-50.
Parce que ça commence à faire chier tout le monde, cette conversation.
50-50.
Avant, on disait que les femmes étaient naturellement douces et qu'elles allaient naturellement vers les tâches ménagères, etc.
Il y a quand même moins de serial killer femmes que hommes.
On disait ça, mais ça, effectivement...
Il y a une raison s'il y a moins de serial killer femmes que hommes.
Et j'ai remarqué aussi qu'il n'y a pas de serial killer. Il y a très 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 peu de serial killer noirs, par exemple, aux États-Unis. La plupart sont blancs. Or, tu vois bien qu'on peut quand même imaginer que c'est quand même des raisons culturelles aussi, le rapport à la famille.
Que malheureusement, ils ont fait des recherches sur les serial killers et qu'il y a un gène de l'agressivité. Mais bon, écoutez.
Non, mais il y a plus d'hommes que de femmes serial killers.
Le problème, c'est de renverser cette doxa qu'on entend depuis 40 ans et la science qui, elle, ne fait pas de politique, actuellement, va dans le sens où plutôt on arrive à isoler génétiquement les gènes.
Juste sur les serial killers. Moi qui ai fait un film sur les serial killers, par exemple, tous les serial killers, si on prend simplement les serial killers français, tous ont eu des enfances absolument invraisemblables, ce qui ne justifie évidemment rien. Maltraités, violés, abandonnés. Donc, par exemple, il y a une dimension là d'éducation d'enfance et les serial killers qui est absolument constante.
Avec la rencontre de la génétique et de l'expérience et des traumatismes, on arrive à... Mais dire que c'est la culture qui influence les êtres est une aberration au niveau scientifique actuellement. La nature les influence davantage.
Une petite question sur le football, peut-être
Mais Gérard, c'est ça que c'est vraiment, les proportions se sont renversées.
Ah bah en football, la culture ne les influence pas. Bardi sur Europe 1. A mis un drap blanc hier à la mi-journée dans ses rayons.
Les marchands de cigarettes, enfin les tabacs quoi.
Les buralistes. Bonne réponse d'Isabelle Motreau. Plus d'une centaine de buralistes ont placé hier un drap blanc devant leur rayon de paquets de cigarettes pour évoquer l'avenir des bureaux de tabac. Ça va quand même être cher, hein, le paquet de clopes là, pour les fumeurs qui sont autour de la table.
Non, puis surtout, ça change, ça va changer pas grand-chose parce qu'on l'a doublé, on a rajouté chaque fois 10% et tout, et la consommation de tabac continue de progresser. Donc il y a un moment, on devrait comprendre aussi. Ils sont très très acharnés, je pense, sur les fumeurs. Et moi, je dirais aussi que si on devait s'acharner sur quelque chose, un bon diabétique que je suis, on s'acharnerait sur l'industrie sucrière. Et parce que c'est de très très loin le sucre et le sel qui tuent le plus de gens. Donc si on voulait s'intéresser à la santé publique, on mettrait des images dégueulasses. Tu le vois, mon pot de Nutella avec son cancer de l'anus sur l'étiquette. Ça serait sympa. Hein, et tu le vois. Et le Choco-Prince. Le Choco-Prince tout gris, complètement édenté, des chicots plein la gueule, la poitrine ouverte, en train de se faire un triple pontage de loi. Hein, et la petite couronne d'hémorroïdes sur les boîtes d'Arissa aussi, tu vois aussi. Eh ben, on pourrait enfin faire quelque chose. Mais si on veut, si on s'intéresse à la santé publique, alors disons que moi, c'est un diabétique qui vous parle, peut très bien manger sans sucre et passer une vie merveilleuse, sans renier une seconde sur nos petits moments de bonheur.
Je crois que plus jamais je ne verrai un pot de Nutella de la même façon.
Il vient peut-être de me guérir.
Il faut garder une attitude positive et faire semblant d'être heureux de danser, sinon on reçoit un avertissement. C'est un ancien employé qui dit ça, mais un employé de chez qui, d'où ?
Ikea.
Ikea, non.
Danser, c'est une métaphore ?
Non, non.
C'est la coupole ?
Il faut garder une attitude positive et faire semblant d'être heureux de danser, sinon on reçoit un avertissement.
Ah, c'est aussi, non, c'est dans les au paradis latin, au machin.
Crazy Horse.
C'est dans les danses et tout. Les filles qui dansent les seins nus doivent avoir tout le temps un sourire impeccable et elles doivent se faire sentir aux gens qu'elles ont du plaisir à danser. Sinon, elles reçoivent un avertissement. Elles le font trois fois de suite et sont virées.
Bah, c'est normal.
C'est tout le contraire d'ailleurs des défilés de mannequins où elles sont obligées de faire la gueule.
Là, il faut qu'elles fassent le mépris absolu. Elles arrivent, elles te détestent. Elles arrivent au bout, elles te regardent. J'ai bande de merde. Elle fait demi-tour.
Vous n'aurez jamais le pognon pour acheter cette robe.
Et en plus, t'as vu comment elle marche. Elles mettent le pied droit, passe de l'autre côté du pied gauche. On dirait qu'elles sont ivres mortes, contrôlées, tu vois. C'est la
mais c'est pas ça.
Moi, j'avais proposé la coupole, tu sais, où il y a des danseurs.
Ah, les Taxi
qui font,
Boys.
Voilà, les Taxi Boys qui font danser
non,
les dames.
Non, c'est pas ça non plus. Non.
Est-ce que alors, ce sont ça, des danseurs professionnels ?
En tout cas, c'est vrai ce que
c'est
j'ai dit.
C'est un ancien employé qui, dans Le Parisien, témoigne aujourd'hui et qui dit « Il faut garder une attitude positive et faire semblant d'être heureux de danser, sinon... » On reçoit un avertissement.
Danse avec, si j'ai bien compris, danse avec les stars.
C'est un homme hein, qui nous dit ça. C'est un employé ou une employée.
Ça peut être les hommes, ça peut être les femmes.
Est-ce que ce sont des gens dont le métier est de danser ?
Non, justement.
Est-ce que c'est dans un parc d'attractions ?
Non plus. D'après les témoignages de ces employés, ils sont tenus de se mouvoir en rythme, c'est-à-dire de danser, au minimum 2h30 d'affilée.
Oui, ah oui, Albert Combi.
Les vendeurs de chez Abercrombie. Bonne réponse de Caroline Diamant.
C'est quoi Albert Combi?
Je n'y suis jamais allé.
C'est quoi Albert Combi?
Je n'y suis jamais allé. C'est une marque de
moi non plus, je ne connais pas.
Hors de prix, dont les enfants raffolent. Et il paraît que dans la boutique qui est sur les Champs-Élysées, il fait noir.
C'est pas seulement dans la boutique sur les Champs-Élysées.
C'est partout, mais
c'est dans les boutiques du monde entier. Chez Abercrombie, vous rentrez. D'abord, il y a une odeur particulière.
Tu sens, mais à des kilomètres. J'étais à Londres encore récemment. Tu sens sur le trottoir, tu demandes. Je ne savais pas où était la boutique parce que je m'étais paumé. Tu demandes à quelqu'un où c'est. Il dit suivez l'odeur.
Mais c'est l'odeur de quoi?
Ils mettent une odeur, un parfum à l'intérieur.
Le parfum que tu peux acheter qui est sur le comptoir.
Sur le trottoir. Et je vous assure que ça empeste toute la rue. Une rue importante de Londres était empestée par
l'odeur. C'est pareil pour trouver les chiottes. Hein. Suivez l'odeur, monsieur.
Oui, mais t'es pas obligé de sourire.
Vous avez à l'entrée, évidemment, un beau gosse. Torse nu qui accepte de faire des photos avec toutes
avec
les clientes qui passent.
Et une jeune fille aussi.
Et à l'intérieur, les vendeurs sont tenus de danser sur leur contrat. C'est pas vraiment écrit, mais normalement, ils sont obligés de danser 2h30. Autrement, il y a le manager qui vient les voir et qui leur dit qu'il faut continuer à danser. Alors les vendeurs
ils devraient
sont...
faire ça dans les banques aussi.
Ah oui.
Ouais. Mais tu l'auras pas ton prêt. Allez, hop là!
Où est la poste?
Allez,
à la poste pendant que les gens font la queue.
Tu vas les payer.
Bouger avec la poste.
La police aussi devrait faire ça. Je t'arrête. Hop là. Tout le monde devrait danser en travaillant. Mais bien sûr, le monde serait beaucoup plus joyeux.
Non mais les conditions de travail dans ces magasins-là sont vraiment terrible, parce qu'effectivement, il fait quasi noir. D'ailleurs, c'est pas pratique même pour choisir les vêtements.
Mais c'est ça, tu vois. On
ils
voit
sont
pas
très bien, d'ailleurs, il faut dire ce qu'il y a. Les vêtements, sympa, c'est super confortable. Ouais. Mais c'est vrai que c'est un enfer.
Il y a une musique extrêmement forte.
Il y a un autre enfer.
Ah, mais on ne s'entend pas parler.
Tu peux pas.
On
c'est
ne
terrible.
Peut pas se parler. Ouais. C'est-à-dire, vous n'entendez pas le prix et vous ne voyez pas ce que vous achetez.
Mais alors, pourquoi
tu connais ni le prix ni la couleur, mais la forme alors.
Il y a un autre.
Tu vas parce qu'il y a des mecs à poil et tu dis, c'est quand même agréable de se faire baiser. Moi, je les ai vus, hein, c'est vrai. À New York.
On a bien compris que tu étais allé plusieurs fois. Hein.
Je suis pas allé encore sur celui des Champs-Élysées.
On fait une descente tous ensemble.
Ah, ce serait drôle. Mais moi, je suis allé à celui de New York cet été. Mais c'est comme voilà, ils sont tous là, garçons et filles, à danser.
Ouais, t'arrivais pas à les attraper, ils dansaient trop.
Mais ça veut dire qu'on les interrompt. En fait,
chez Félix Potin aussi, mais c'est Parkinson. Parle-t-on dans la presse aujourd'hui du petit Vincent P que ses parents ont inscrit à l'école Jules Simon de Saint-Nazaire?
Mais oui,
c'est Vincent Payon.
Non.
Vincent Payon.
Il serait temps qu'il y aille.
Oui. Est-ce que c'est un patronyme connu?
Oui, puisque Vincent Payon porte le même.
Donc c'est donc.
Il s'appelle Payon?
Non. Alors. C'est pas par hasard s'il s'appelle Vincent P.
Il a quel âge? 6 ans?
J'ai pas l'âge, c'est pas facile à évaluer.
C'est un personnage, c'est pas un être humain.
Quel rapport avec le lycée?
Non, c'est quelqu'un qui vit.
Vous pouvez reposer la question?
Ah, c'est un animal.
C'est un animal.
C'est un animal, ah. Hein, c'est pour ça le petit sourire vicieux de Laurent Ruquier. Hein.
Attendez, SVLR. Qu'est-ce qu'on cherche en fait?
Pour prouver quelque chose, des gens ont inscrit sous le nom de Vincent Payon un animal dans une classe pour prouver quelque chose.
Ils voulaient comparer, ils voulaient faire la comparaison entre les petits enfants et les petits singes. Et le petit singe va plus naturellement vers les cacahuètes que vers les poupées. C'est une question de génétique.
Le petit singe mâle.
Oui, le petit singe mâle.
Est-ce que c'est un âne?
C'est Yann Maxine a dit.
Un chien,
un âne. Le petit singe femelle va vers les M&M's roses.
Non, je vous ai aidé, j'ai dit revenons à notre élève.
À nos moutons, c'est un petit mouton.
Un petit mouton. Mais pourquoi alors? Expliquez pourquoi.
Sans doute pour prouver quelque chose. C'est un
j'ai
mouvement
une idée.
De contestation.
Allez-y. Alors, est-ce que j'imagine que c'est un rapport avec l'éducation? Avec le retour de la morale à l'école?
Non, non. Je vous explique. Les parents de l'école Jules Simon à Saint-Nazaire sont en colère, fait. Parce que le rectorat a décidé de fermer la 12e classe de l'école élémentaire. Tout ça parce qu'il manque un élève dans la classe pour atteindre le quota. Alors, qu'est-ce qu'ont fait les parents?
Ça ne dit pas.
Ils ont inscrit un mouton sur les listes d'élèves. Puisque les élèves sont comptés comme des moutons, disent-ils, nous avons complété l'effectif avec un petit mouton. Évidemment, ils ont fait exprès de l'appeler Vincent P. du nom du ministre de l'Éducation nationale. C'est Ouest France qui raconte cette histoire. Est-ce que l'Académie va céder pour autant? On sait pas. C'est une idée marrante.
Oui, c'est très drôle. C'est très drôle.
C'est une idée marrante, mais ça recouvre quand même une réalité. C'est que moi, je connais ça au collège de ma fille. C'est exactement ce qui se produit.
Il y a un mouton.
Non, alors il n'y a pas de mouton. Mais disons qu'il y en a
peut-être.
Mais
votre fille, elle est belle.
Il y en a peut-être dans l'équipe de l'Académie, parce qu'effectivement, il ferme une classe parce qu'il manque un élève.
Mais c'est combien
le minimum? C'est insupportable. Écoute, c'est 25.
Combien
c'est...
vous aviez d'élèves quand vous étiez prof de gym?
27, 28.
Ah ouais. Combien 27, de temps vous avez été prof de gym?
4 ans à peu près.
4 ans prof de gym.
Ouais. Mais au-delà, ça devient infernal, quoi. Tu peux pas, là. Après, ça devient un groupe trop important.
Là, il y a des élèves de 30. Il y a des classes avec 37 élèves, là, à Paris.
Mais vous étiez drôle déjà, comme ça, quand vous étiez prof?
J'étais super drôle, mais je battais des records. Le proviseur disait, ce garçon a une autorité naturelle sur les élèves que je n'ai jamais vu.
Ah bah j'imagine.
Et toi, j'avais que des classes de filles en plus.
Tu vas courir plus vite, enculé.
Non. Non, non, et tu sais pourquoi? Parce que je faisais exactement comme chez Albert Combi, c'est ça?
Albert Combi.
Non, mais j'étais joyeux, j'étais content de faire ça. Et donc, je faisais ça d'un bonne humeur. Et mes élèves, tout d'un coup, qui eux, les filles, c'est terrible, hein, en classe de seconde, troisième seconde, c'est des pestes, elles font tout pour te faire chier, c'est beaucoup plus vicieux que les garçons.
C'est génétique, Jean-Marie, c'est pas de notre
faute.
Qu'est-ce qu'elles faisaient?
Elles allumaient une clope, elles se mettaient à récupérer derrière. Et moi, C'était très moderne à l'époque, parce que je vous parle de ça, ça fait quand même un moment. Et je leur disais, allez dans le vestiaire, dans mon blouson, il y a des clopes, mais laissez-nous, nous on travaille. Et puis comme je m'amusais avec les autres...
Ouais, non, c'est vrai, t'avais une certaine autorité.
Et ben non, mais tu peux pas savoir à quel point, c'est que la semaine d'après, celle qui était les plus dures, eh bien, les autres disaient, attends, c'est tellement marré avec lui, on a joué à ça, on a fait ça, j'essayais de rendre tout le plus ludique possible. Ouais. Et la semaine d'après, elle venait, c'était
toute la classe allait fumer dans le vestiaire.
Non, au contraire, et c'était elle qui ramassait les ballons. Mais par contre, chapeau, quoi, à tous les enseignants, parce que j'aurais pas pu le faire plus de 4 ans, à ce rythme-là, en me donnant autant.
Par exemple, on n'a jamais vu un garçon.
Qu'est-ce que tu vas sortir comme connerie?
Être dispensé de piscine en disant qu'il était indisposé. Enfin, ouais, c'est génial.
Eh bien si, parce que moi j'avais pas compris alors.
Ouais, dites-moi madame, c'est curieux, votre fils a ses règles 4 fois dans le mois. Le jour de la piscine, c'est normal.
Qu'est-ce qu'on a retrouvé justement 4 mois plus tard?
Pourquoi justement?
Dans la cuisse d'un enfant.
Ah, moi je sais.
Un guidon.
Guidon de vélo.
Un guidon de vélo, bonne réponse.
Non, je peux pas accepter ça.
Quoi?
Attends, je ne suis pas ennemi d'une petite blague, je suis moi-même dans l'humour. Hein. Mais un guidon.
Un morceau de 7 cm.
Un guidon, bah dis, un petit morceau de guidon.
Un petit morceau
pas
de
un guidon.
7 cm.
Un guidon dans la cuisse.
Oui. Tu sais,
Et figurez-vous, on a retrouvé un moteur de 4L dans son estomac. Je sais pas ce que vous lui donnez à manger. Tu vois, et il avait un porte-avions dans l'épaule. Clairement. Ça n'exagère pas quand même, hein. Je veux bien qu'on rigole un peu, mais pas un guidon.
Ça faisait comme dans les auberges quand t'as une tête de cerf qui dépasse du mur.
Exactement. Voilà, il y a le guidon qui dépasse.
Et pas dans 4 mois, ils s'en sont pas aperçus.
Non,
pas
rien.
Il freinait un peu bizarrement. Ouais. Non, mais c'est pas un guidon, c'est le frein du guidon. Vous voyez,
voilà.
La poignée de frein du guidon, voilà.
Oui.
7 cm, la poignée Ah oui, quand même. La poignée de frein longue de 7 cm est logée dans la cuisse de ce garçon. Ça faisait 4 mois. Le médecin.
Non, pardon, mais quand ils ont regardé le vélo, ils ont pas vu qu'il manquait le frein?
Non, parce qu'il y avait la peau de la cuisse autour.
Non, mais ça vous arrive jamais d'avoir une écharpe dans le doigt, puis ça dure.
Pas une écharpe de 5 cm.
11 ans, c'est un gamin de 11 ans. À la clinique de Saint-Privat, le médecin a bien fait son travail de chirurgien, parce qu'ils lui ont fait une radio et c'est là qu'ils ont vu le guidon de. Enfin, le morceau de guidon de 7 cm. Mais au départ, quand il est allé aux urgences il y a 4 mois.
Il a dit, pardon, allez chez Decathlon, monsieur, là, on peut rien pour vous.
Non, ça veut dire, Laurent, ils ont recousu le gosse.
Exactement.
Ils ont recousu le gosse en laissant 7 cm.
Exactement. Ouais. Sans faire de radio. Il faut toujours faire de la radio.
Oui, Caroline.
On aimerait savoir dans quelle ville c'est pour éviter d'aller chez ce médecin.
Ah, le médecin qui a pas vu la poignée de frein.
Bah, attendez, ça fout les jetons quand même.
C'est à Puy-Misson.
C'est-à-dire
Puy-Misson, c'est un village près de Béziers. C'est là que ses parents ont conduit aux urgences, j'imagine à Béziers peut-être.
Et oui, parce que les urgences de Puy-Misson, c'est pas
si
sûr.
Si elles sont ouvertes, mais de 13 à 14 heures.
Mais ça cicatrisait pas, hein, sa blessure.
Ah bah oui, forcément.
Tu m'étonnes. Ah bah le moindre morceau de ferraille de 7 cm, et tu cicatrises moins bien, hein, ça c'est sûr.
En mois d'août, il a passé plusieurs examens pour comprendre ce qui n'allait pas, parce que ses parents comprenaient pas.
Il nageait, il coulait chaque fois et...
Et là, le chirurgien s'est aperçu qu'un bout de vêtement dépassait de la plaie.
En plus, il y avait du tissu.
En plus, il y avait du tissu.
Ah, putain, il y avait un bordel là-dedans. Non. Mais sans chirurgien, sans rien du tout, n'importe qui aurait pu voir, sentir, toucher.
Bon, on plaint ce gamin de 11 ans, évidemment, ça a dû être difficile pour lui.
Non, mais même lui, là, un petit peu. Même lui, putain, il peut passer la main sur sa cuisse puis se dire « Maman, j'ai un truc de dur,
mais c'est pas
dans la culotte, c'est dans la cuisse. » Et dire « Mais mon gosse bande bizarrement. »
C'est surtout que Crème, il aurait pu se dire « Où est passée la poignée de frein de mon vélo ?»
Ouais. Quand tu conduis ton vélo depuis 4 mois d'une main, ça te met pas sur la piste. Et qu'en même temps, du même côté, t'as mal à la cuisse.
Excuse-moi Jean-Marie, chaque fois qu'il manque un truc chez moi, je me dis pas que j'ai dans la cuisse ou ailleurs. Donc...
Ouais. Sauf tes sextoys.
Il s'appelle Dylan, le petit gamin de...
Oui,
de...
ça ne change rien. Hein. C'est... Vous le donnez comme une information complémentaire, d'accord. Mais ça ne change rien du tout. C'est
non,
pas
alors,
du tout
non,
pour ça.
Hey. Okay. Non, tu sais ce qu'il voulait?
Et en fait, le petit garçon s'appelle Dylan et tout le monde fait Ah, ça y est, maintenant je comprends tout. Ah, c'était un Dylan.
Ah ouais.
Bah, évidemment, mais tu l'aurais dit dès le départ. On n'aurait pas eu tout ce débat.
Non, mais c'est pour ça qu'il
mais forcément, les Dylan sont connus pour se balader avec des morceaux de guidon
c'est
de vélo
ça
dans
a
les
pas
cuisses.
Dit au début, c'était trop facile.
Ah ouais.
Encore là. Que s'il y avait un autre chanteur, j'aurais pris Jean-Guy Denis.
Ah oui, bravo.
Nouvelle saison, nouvelle rubrique. Qui est pour ? Qui est contre ?
On parlait de l'augmentation du prix des cigarettes tout à l'heure, mais il y a une autre chose sur laquelle j'aimerais que ben voilà, vous prononciez pour ou contre les uns et les autres, c'est l'introduction des paquets génériques sans logo. C'est-à-dire que c'est un projet de loi, hein, une idée du gouvernement de Mme Marisol Touraine. Ça ne fait pas non plus plaisir aux buralistes, ça, mais ce serait l'idée qu'à l'avenir, ça ne va pas se faire tout de suite à mon avis, mais tous les paquets de cigarettes vendus chez les bureaux de tabac seraient blancs. Il n'y aurait plus de marque. Évidemment, on demanderait quand même sa marque habituelle. Je ne sais pas d'ailleurs comment ce serait rangé dans les rayons.
Oui.
Mais en revanche, toutes les marques seraient confondues du fait que chaque paquet serait blanc.
Est-ce que ça supprimerait du même coup les images dégueulasses qu'on a en ce moment sur les paquets de
cigarettes ? Ah non, au contraire,
elles seraient plus visibles.
Ah non, c'est-à-dire on les verrait, les images resteraient.
Je voudrais un paquet de dents dégueulasses, s'il vous plaît.
Donnez-moi deux cancers du poumon.
C'est la raison pour laquelle je vais fabriquer, moi, des petits paquets, des cache-clopes, où c'est marqué devant deux non-fumeurs sur deux meurent. Et de l'autre côté, ah oui, c'est vrai. c'est pour ma consommation personnelle.
Il y a des pays où ça existe déjà. Je crois que c'est en Australie qu'ils ont fait déjà les paquets blancs de cigarettes. Pour ou contre, vous, Caroline ?
Contre.
Vous fumez, vous aussi.
Et en tout cas, triste. C'est triste. C'est plus triste. Quitte à mourir, autant qu'il y ait un peu de couleur, bordel.
Contre, pourquoi ?
Mais parce que je ne comprends absolument pas Enfin, c'est comme si on disait qu'un alcoolique va arrêter de boire parce qu'on change l'étiquette sur la bouteille.
Non, parce qu'on met toutes les mêmes bouteilles.
Bon. Gérard Miller.
Je suis contre. Moi, je suis absolument toutes les mesures répressives sur le tabac. Ça ne me gêne pas qu'on augmente le prix du tabac. On parlait de l'Australie.
Donc, vous êtes pour les paquets blancs ?
Non. Je commence pour expliquer que je suis plutôt, évidemment,
j'essaie
pour l'interdiction.
De comprendre, Gérard.
Pour l'interdiction de fumer dans les lieux publics, pour l'augmentation du prix du tabac. Bien et sûr. En même temps, je ne vois pas pourquoi il faudrait combattre le mal par le lait. Moi, ces paquets de tabac, je les trouve monstrueusement laids. Ouais. Je suis désolé, ça participe.
Ah bah là, ils ne le seront plus, ils seront tout blancs.
Mais pas du tout.
Ah bah non, parce que les images subsistent.
Il y aura les images. C'est exactement ce que disait ce que disait Bigard tout à l'heure sur le Nutella et même sur le vin. Le vin, t'imagines, si t'avais des bouteilles de vin, un des plaisirs quand on est un buveur raisonnable, c'est d'avoir ces jolies bouteilles, ces jolies étiquettes. Tu aurais une cirrhose du foie dessus. C'est insupportable. Moi, je vois pas pourquoi il faudrait vivre au milieu d'autant d'objets laids. Et ces paquets de cigarettes me dégoûtent quand je vais au restaurant qu'à côté de moi il y a des fumeurs qui posent ces trucs-là. Mais c'est pourquoi s'imposer ça?
Pourquoi est-ce qu'on a des... Il y en a une image, le mec il a des boyaux sous le cou. T'as toutes les chances de vivre 50 fois sans jamais voir cette image et là on te l'impose toutes les 5 minutes. Et moi je dis que ça devient presque tentant tout d'un coup.
C'est insupportable.
Et c'est-à-dire on te donne une image, on te donne une image d'un futur désastreux qui peut te toucher d'un moment à l'autre et je trouve que ça t'emboucane beaucoup plus la tête. Et je trouve que c'est pas par cette mocheté qui va finir par être banalisée, parce qu'on rigole avec ça qu'on va arranger les choses. Non.
Isabelle Motreau.
Moi, je suis contre aussi. Je suis pas fumeuse, mais je fume occasionnellement. Je suis d'accord avec Gérard. Je vois pas du tout. D'abord, je pense que ça n'aura aucun effet. Et puis, en plus, je trouve qu'il y a une dimension d'hypocrisie qui est quand même assez gênante. Ouais. Je veux dire, à un moment donné, s'il faut empêcher les gens de fumer, empêchons-les de fumer.
Interdisons le tabac. Voilà.
Mais à un moment donné, je trouve cette espèce d'hypocrisie. Qui est de stigmatiser comme ça gens qui fument alors que finalement on les vend toujours ces paquets de clopes
défenseurs des droits des non-fumeurs tu vois les droits des non-fumeurs c'est des ayatollahs quoi, c'est-à-dire ils vont à fond dans le truc. Il y a eu j'habite pas loin moi vers l'Assemblée, c'est chez Tante Marguerite un truc comme ça, elle a mis des sas partout. Tiens-toi bien pour que les garçons sont pas au contact des fumeurs, parce qu'il y a un sas. On passe les plats, comme pour les chiens, aux zoos, on passe les plats. Parce que les mecs, on n'est pas loin de l'Assemblée, des gros fumeurs de cigares et tout, machin, invétérés. Donc, elle se met aux normes complètement. Et là, il y a Gérard Oduro, donc le président de l'Association des droits des non-fumeurs. Ils disent, mais alors, d'accord, tout est bien, mais à ce moment-là, moi, dans cet endroit-là, où on peut fumer, je veux pas qu'on mange.
il veut pas qu'on mange à l'endroit où on fume. Alors que l'autre s'est arrangé pour qu'on puisse fumer à l'endroit où on mange. Et donc, je veux dire, ça va très très loin. Il n'y a qu'à juste prendre un 6 coups et puis les tuer directement, les fumeurs. Bientôt, on va être chassés dans la rue. Oh.
Non mais... Le débat n'est pas sur la question de la répression ou non des fumeurs. La question, non. C'est le paquet de cigarettes, etc. Moi, par exemple, l'interdiction de fumer dans les lieux publics, tout le monde était plutôt contre au début.
Non, moi, tout le
monde est pour aujourd'hui.
Oui,
donc, il y a des mesures tout à fait saines.
Et
c'est formidable. Là, on parle des paquets de cigarettes. Je ne vois pas pourquoi on nous imposerait de vivre au milieu de ces
horreurs. Titeuf, pour ou contre.
Par contre, la prochaine fois, on ne pourra pas commencer le débat dans l'autre sens.
parce que
ça fait deux jours que je me tape le moment où tout le monde a déjà parlé. Alors, moi, je suis pour. Comme tout le monde était contre, je suis pour et je vous emmerde. Voilà, c'est très bien les paquets blancs.
Voilà.
Qu'est-ce que vous voulez que je dise ? Tout le monde a parlé de deux heures là.
Oh, un beau paquet blanc sans logo, sans savoir.
Parce qu'en fait, avec c'est... un mec avec un beau pantalon blanc.
Non.
Et des buralistes qui danseraient torse nu.
Laurent,
ça,
non.
Si les buralistes dansaient torse nu en dansant.
Bon, ben il y en a certains, excusez-moi.
Laurent, tu as dit un beau paquet blanc. Il sera pas beau parce qu'il y aura toujours les images dégueulasses. Un beau paquet blanc, moi je veux bien. Hein, si on supprime les images dégueulasses, moi ça me va déjà très bien.
C'est générique, c'est comme les médicaments.
Exactement, c'est générique.
Ça veut dire que ça va pas être les marques. Ils vont annuler les marques.
Ça n'a rien à voir avec le générique, ça je comprends.
Non, il y aura
le générique, c'est rien du tout. C'est les mêmes molécules.
Des paquets génériques sans logo, Gérard.
Générique, ça veut dire que c'est plus les marques qui les fabriquent. Quand vous dites les médicaments génériques, c'est-à-dire qu'il y a le brevet à un moment tombe.
Est-ce qu'ils vont faire comme les pharmaciennes
qui veulent absolument te vendre le générique, tu sais.
Je voudrais Marlboro Light. Ah non, il faudrait mieux de prendre le générique, monsieur.
C'est pareil, c'est le même goût. Vous aurez le même cancer.
Voilà, c'est ça. Parce que maintenant, les pharmacies.
Ils te proposent.
Oh non, je veux des Doliprane. Ah non.
Qu'ils proposent le générique dans les pharmacies, puisque c'est moins cher et donc ça creuse moins le trou de la sécu. Si ça a les mêmes vertus, les mêmes molécules, je vois pas pourquoi on prendrait pas le générique.
Ce que je me demandais, c'est si ça allait pas faire naître un nouvel accessoire qui serait l'étui de cigarette,
Ça existe déjà.
C'est
ce que j'ai fait.
Oui, mais il n'y en a pas beaucoup, tu vois. Peut-être que là, maintenant, ça va se généraliser et voilà, on va continuer le truc, quoi.
Je vais peut-être me lancer là-dedans.
Des très jolies caches avec des fleurs, voilà, avec des trucs, des dessins, un tableau et tout, c'est quand même plus mignon.
Ou on peut arrêter de fumer.
Bon, allez, on arrête de fumer, non ?
Non, mais on peut aussi arrêter de boire, sans déconner. On peut tout arrêter, mais on va se faire chier, je te jure. Hein.
Je vous propose une pause, justement. Mais interdiction de fumer dans les locaux de repas, vous le savez. Le temps des informations. On se retrouve tout de suite après.
Europe 1, on va se gêner.
On va se gêner.
Laurent Ruquier.
Titoff, Isabelle Motreau, Gérard Miller, Caroline Diamant, Yann Moix et Jean-Marie Bigard sont avec vous encore une heure. Je ris parce que juste avant le générique, il y a Jean-Marie qui me fait « Et ma blague, je la raconte quand alors ?» Parce qu'on l'a donné, rappelons-le pour nos auditeurs, ou apprenons-le à nos auditeurs plutôt qui n'auraient pas été là en début d'émission. Oui. On a donné une blague à Jean-Marie Bigard, envoyée par un auditeur. Une blague qui n'était pas très drôle au départ.
Une blague pourrie.
Racontée, mais vous allez nous la raconter à votre façon en la transformant, c'est ça ?
C'est monsieur David Sablé. Hein, merci de m'avoir envoyé cette blague pourrie. Alors, je vous la raconte, c'est une femme qui est très en colère au téléphone. Elle dit à son mari, et où est-ce que tu es, espèce de connard ? Tu vas me dire où tu es ? Et lui, très gentiment, il lui dit, chérie, tu te souviens de cette bijouterie qu'on avait vue il y a quelques années ? Tu avais vu une bague magnifique, sertie de diamants. Et je me souviens très bien, je t'avais dit, eh bien écoute, un jour, elle sera à toi. Mais je n'avais pas encore assez d'argent pour te l'offrir. Est-ce que tu te souviens ? Et là, la femme, toute douce, elle dit, oui, mon amour, oui, bien sûr que je me souviens. Eh bien, figure-toi que je n'ai toujours pas le pognon. Et je suis au bistrot. Et je t'emmerde.
Oh non, non, vous l'avez un peu niqué.
Oh, dis donc, t'as vu comment elle finissait ? Attends, excusez-moi.
C'était lui, je suis au bistrot à côté.
Ouais.
À côté,
oui, mais alors,
c'est important.
Attends. La femme calmée, soudainement tout émue, la voix presque sanglotante. Oh oui, mon amour, je me souviens. Et la réponse, c'est, eh bien, je suis dans le bistrot juste à côté.
C'est important, juste à côté.
Oui, mais juste à côté, mais ce qui est le plus important, c'était de lui dire, eh ben, le pognon, je l'ai toujours pas, connasse. Et je suis au bistrot. Et là, ça devient drôle, excuse-moi.
Marie-France et Nicolas, pardon, hein. On a un peu retardé votre challenge avec nous, mais il était important d'écouter la nouvelle version de cette blague par Jean-Marie. Oui. Vous êtes d'accord, Marie-France ?
Oh que oui, c'était un pur bonheur. Bonjour à tous.
Vous êtes dans le Calvados, un département chanceux à l'Euromillion.
Oui, tout à fait. Alors, manque de chance, je ne fais pas partie des heureux chanceux.
Est-ce que ça a relancé l'immobilier dans le Calvados, cette histoire
oh,
de gain?
Certainement que sur les côtes, l'immobilier va beaucoup mieux. Mais,
vous n'avez pas gagné, mais est-ce que vous jouez au moins à Marie-France?
Oui, Laurent, je joue de temps en temps.
Vous êtes à Mairie-Corbon. C'est où ça, Mairie-Corbon?
Oh, c'est entre Caen et Lisieux, c'est la vallée d'Auge.
D'accord.
Ouais, chaque fois qu'on
si tu vas pas à Caen, t'auras toujours Lisieux pour pleurer.
Tout à fait. Oh, allez-y, celle-là, Jean-Marie.
Marie-France, faites quoi dans la vie?
Je donne des cours de soutien aux gamins du primaire au collège, quoi, la troisième.
C'est bien, c'est très utile.
Vous avez désinvolte un peu, il n'y a rien qui a l'air important. Oh, je suis entre Caen, Lisieux, on ne sait pas trop, je donne des cours comme ça. Tout bon,
oh, si,
elle est très humble.
C'est pas de la désinvolture, c'est un certain désintérêt
et pour la vie en général.
Mais spécialement pour ce que vous êtes en train de faire maintenant. Ouais.
Non, vous avez l'air joyeuse, Marie-France.
On se trouve avec des gamins qui ont des guidons dans les cuisses.
Vous présente Nicolas, vous êtes d'accord?
Oh ben bien sûr.
Êtes-vous marié, Marie-France?
De temps en temps. Je suis un peu marié, ça dépend où est mon mari. Des fois il est avec une autre femme, des fois il est au bistrot, mais bon,
entre
tout ça, ça va bien.
Ouais. je vous présente Nicolas, on ne sait jamais, Marie-France.
Tout à fait.
Nicolas, vous êtes à Rognes, vous.
Rogne.
Il est très remonté.
C'est où Rogne?
C'est Rogne, vers Marseille.
Exactement, c'est à côté d'Aix-en-Provence.
Faites quoi vous, Nicolas?
Alors je vais vous faire rêver. Je suis gérant d'une société de maintenance informatique.
Ah oui.
Oh, ouais. Ça fait rêver en effet. Ouais. Tu nous connais
rien
bien.
Chez Abercrombie alors. Nicolas, Marie-France, peut-être vous allez partir en Vendée au château Boignard, magnifique hôtel 5 étoiles, idéalement situé, vous le savez depuis lundi, dans un parc de 10 hectares. La demi-pension, on accueille VIP, le restaurant gastronomique, la table du Boignard, le hammam, le tennis et la salle de fitness vous attendent, Marie-France ou Nicolas. Mais pour ça, il faut répondre à cette question. On voit ce matin, dans le journal gratuit, par exemple, Direct Matin, une photo du pape Benoît XVI dans les...
Renault lui a envoyé des papas mobiles électriques.
Attendez. Il faut répondre à la question. Alors, la question, c'est pas qu'est-ce qu'il a eu comme voiture ou quoi que ce soit. La question, c'est on voit le pape Benoît XVI dans les jardins du Vatican, aux côtés de qui?
Carlos Ghosn.
Carlos Ghosn, bonne réponse.
Oh oui. Il était sur le coup, Nicolas, hein.
Ah là, Nicolas, il voulait partir. Hein.
Ouais, Marie-France, elle a dit « Bon, je gagne pas. » Bon, c'est pas très important.
Ah non, là, Nicolas, c'est un sans-faute, là, franchement. Non.
Qu'est-ce que vous dites, Marie-France?
J'ai dit « Il reçoit deux voitures de Carlos Ghosn. »
Ouais, ouais,
oui,
mais là,
pas
on, a fini,
question.
On a fini le jeu depuis un quart d'heure, Marie-France.
C'était pas la question. Le problème, c'est de répondre avant que la question soit posée. Ma question, c'est qui on a vu dans les jardins du Vatican aux côtés de Benoît XVI? La réponse, c'est pas deux voitures. Hein, la réponse, c'est Carlos Ghosn. Vous comprenez ce que je veux dire?
Il m'a donné les clés.
Ça, c'est ballot. Ça.
Non, mais c'est ballot,
comme dirait Fabrice.
C'est vrai qu'elle a répondu avant, mais elle a quand même dit deux voitures offertes par Carlos Ghosn.
Mais lui, il a dit aussi à ce moment-là, il a dit deux voitures avant elle.
Alors, elle a dit le premier. Là,
ouais. C'est compliqué.
Non, c'est très compliqué.
C'est compliqué cette histoire.
Non, mais ça, les auditeurs ne doivent pas. Non, c'est répondre avant la fin de la question, tout simplement. Donc, moi, je pense qu'ils sont éliminés tous les deux.
Oh. Ah ben non, il y en a un qui a vraiment gagné.
Bah oui, non,
Marie, on a gagné tous les deux.
Marie-France, ah bah, si vous voulez partir ensemble au château Boignard...
Ouais, fais gaffe, Nico. Hein, là,
ça... On pas la première épouse.
Nicolas, fais-toi envoyer une photo, déjà. Et puis, Marie-France, laisse-toi pénétrer par l'idée dans un premier temps.
Nicolas, on ne peut pas faire gagner les deux. Ou alors, il faut que vous acceptiez de partir ensemble, effectivement, ce qui est quand même très rare chez les auditeurs qui ne se connaissent pas. On ne fait pas non plus réunion.
Oui, et puis on a eu un petit aperçu de Marie-France quand même.
Marie-France.
Oui.
On va vous offrir des places pour le théâtre Antoine. Tiens, voilà, je vous offrirai. Vous irez applaudir Patrick Timsit et Elsa Zilberstein à partir d'octobre.
Et deux invitations pour le Splendide aussi pour mon spectacle.
Et deux pour le Palais des Glaces. C'est parti.
Et bien alors là, et. Nicolas, c'est con que vous ayez gagné. Pour vous, c'est Château Boignard.
Europe 1, on va se gêner. Le livre de la semaine.
Héros, c'est le titre de ce roman, car ça reste un roman signé Félicité Herzog. Félicité Herzog, c'est la fille de Maurice Herzog, légendaire vainqueur de l'Annapurna, qui fut aussi ministre, si ma mémoire est bonne.
Ministre du général de Gaulle.
Voilà, Gérard Miller, et ce roman a... Héros, publié chez Grasset, fait beaucoup parler dans la presse. On dit qu'il est assez violent, assez, évidemment, un roman autobiographique, puisque ce héros, c'est lui, Maurice Herzog, et c'est sa fille qui parle de son père.
C'est un livre absolument inouï. J'ai commencé à le lire assez tard, donc en me disant je vais le lire en deux jours. Je n'ai pas arrêté de le lire jusqu'au bout. C'est un livre formidable, je ne sais pas pourquoi on dit roman. Très bien écrit, une écriture simple mais efficace. Je trouve vraiment que c'est très réussi. Et ça décrit non seulement les rapports incroyables que ce père a eu avec son entourage, un père d'une cruauté terrible, un père obscène, enfin qui multipliait les maîtresses, qui traitait ses enfants extrêmement mal. On apprend vraiment aussi ce que c'est que la société française dans cette partie-là de la société, c'est-à-dire une famille ultra-réactionnaire, antisémite, collabo, les grands-parents enfin, ont vraiment tout pour plaire. Herzog lui-même, fasciné par Le Pen à un moment donné, un ministre du général de Gaulle qui n'arrête pas d'être fasciné par Le Pen, qui essaye de convaincre sa fille.
Et alors, moi j'aime bien cette famille.
Ouais. Et surtout, deux enfants, donc effectivement Laurent qui va mourir, qui va être le sacrifié de la famille.
Non.
J'ai adoré, je trouve ça d'une force incroyable. Et surtout, on voit à quel point, je ne sais pas si c'est seulement de la haine, à quel point cette fille avait besoin d'écrire ce livre pour venger son frère. C'est un livre, mais formidable à lire d'une traite.
Diamant, d'accord ou pas ?
Absolument d'accord. Un livre, hélas, magnifique. Je dis hélas parce que l'histoire de cette famille est terrible. Ce héros, c'est au-delà de... voilà, c'est...
Au-delà de l'ironie. J'ai oublié de dire, pour les gens qui nous écoutent, c'est donc Maurice Herzog était le supposé grand vainqueur de l'Annapurna. C'est-à-dire la première fois, on est après-guerre.
L'Annapurna, c'est une montagne, hein, c'est pas une grande gonzesse. Voilà.
On est après-guerre.
C'est pas une pute russe, hein, même si c'est fini en A. Hein.
C'est la première fois qu'on va monter aussi haut, donc c'est 8000 mètres. La France a besoin de héros, on est après-guerre, bon, dans les quelques années après la guerre. C'est une opération qui est montée vraiment comme une opération médiatique pour faire en sorte que les Français soient fiers. Et elle décrit effectivement à quel point ce père, qui est devenu un héros étonnant, non, est en fait un escroc.
C'est là où il perd ses doigts.
Il perd ses doigts.
Terminer la guitare au retour de l'Annapurna.
Non, mais parce que justement, elle explique à quel point... Moi, c'est vrai que j'ai absolument aucune fascination pour ce genre d'exploits. Maintenant, je respecte tout à fait ceux qui les ont. Mais bon, et effectivement, cet homme se retrouve à la tête d'une expédition. Et pour gravir les derniers mètres qui le séparent du sommet, il faut absolument qu'il soit accompagné. Il faut qu'il soit accompagné pour qu'on prenne une photo de lui. Ils savent pertinemment que de gravir les derniers centaines de mètres qui restent vont de toute façon leur faire perdre les orteils et les doigts des mains. Et le mec qui l'accompagne n'a absolument pas envie de les gravir avec lui. Elle explique tout ça.
Donc, c'est pas évident pour une photo en plus.
Déjà, elle nous place, elle nous raconte tout de suite, dès le début du livre, elle nous met dans le contexte.
Au moins, t'es sûr que t'as pas les doigts devant l'objectif.
Oui. C'est sûr que...
Non, mais... C'est atroce.
C'est dur de prendre une photo avec les moignons.
Non, mais elle descend. Elle nous raconte la descente de l'Annapurna, qui est absolument atroce. Leur arrivée avec des vers qui dépassent de chaque membre. C'est absolument terrible. On se rend compte que ce père, alors quand tu dis atroce, c'est un père qui était fait pour avoir des enfants, comme moi, danseuse à l'Opéra de Paris. Mais à la limite, sa mère aussi n'était pas vraiment faite pour avoir des enfants. Ce qui est terrible, c'est que ce sont des gens intelligents, des gens cultivé. Le fils aîné est très malade. Il est très malade, c'est une maladie mentale. Il est d'une violence inouïe avec sa sœur. Il lui fracasse la tronche.
Bon, vous avez aimé ça. Ne racontez pas tout le livre.
Non, ça, c'est le début. Hein.
Moi, ça donne bien envie, tout ce que tu
dis. Non.
Isabelle Motreau.
C'est formidable.
Elle est fascinée que par les mecs qui lui grimpent dessus, mais pas les gens qui escaladent les montagnes. Hein.
Isabelle.
Moi, j'ai beaucoup aimé aussi, parce que pour les mêmes raisons que tout ce qui a été dit pour le moment, j'étais aussi en plus très touchée par la description qu'elle fait de la société, parce que finalement on va dire qu'elle décrit quoi, une cinquantaine d'années de la vie française, vue du point de vue plutôt politique et un peu artistique, avec beaucoup de vivacité.
Et
quoi.
De quoi parle ce livre alors?
C'est chez Grasset, un héros signé Félicité Herzog. Ils ont dit beaucoup de choses, mais comme vous dites toujours des choses différentes, je termine par vous, Yann Moix.
Voilà.
C'est un livre sur la virilité.
Et on nous fait souvent croire que l'exploit et l'héroïsme sont les deux mamelles de la virilité. Et effectivement, on sort d'une époque de la résistance où on fabrique les héros de toutes pièces. On a besoin que Jean Moulin soit au Panthéon. On a besoin de faire coïncider la résistance avec le général de Gaulle. Et là, on a besoin de faire coïncider l'héroïsme avec une figure tutélaire, celle du père et du héros qu'on doit respecter. Mais il ne perd pas que ses doigts, il perd les membres de sa famille. Et à travers le faux, l'exploit truqué, à travers le mensonge quasi stalinien, parce que cette époque, elle est aussi stalinienne à l'envers, elle est stalinienne gaullistement parlant, à travers ce mensonge, exactement comme on a détruit les familles dans les pays communistes, là on détruit la famille au nom d'un exploit, au nom d'une virilité, et donc les femmes ne sont que des magasins à foutre, les filles ne sont que des parures à paire, les exploits ne sont que des manchettes pour magazines, et finalement, le véritable héroïsme, c'est quoi ? C'est avoir une vie intérieure riche, et non pas avoir une vie extérieure fournie. Et à force d'avoir multiplié les apparences, Maurice Herzog a eu une vie de merde.
C'est là,
bravo.
C'est là où on voit que Yann Moix, c'est pas seulement réactionnaire, il est intelligent, c'est remarquable.
Je n'ai jamais été réactionnaire de ma vie, j'ai seulement toujours été de droite.
Manifestement, franchement, hein, ça a plu à tout le monde,
ah, oui.
À tous ceux qui l'ont lu. Jean-Marie Titoff, il vous reste à le lire, moi aussi
oui,
d'ailleurs.
Bah, oui.
C'est chez Grasset, un héros signé.
On connaît la fin, on sait qu'il arrive en haut du sommet, le mec a rien compris.
Félicité Herzog, ne le ratez pas, c'est dans toutes les bonnes librairies en ce moment. Merci. Cinéma avec Pantel, dans quelques minutes.
Europe 1, on va se gêner.
Ciné.
Motro.
Pompon.
Bonsoir Monique Pantel.
Ça. C'est le vol du bourdon.
Ah, ah pourquoi ah,
oui. C'est parce que j'ai le bourdon.
En regardant quel film ?
Les films me font chier en général. Mais qu'est-ce qu'il y a depuis quelque temps ?
Ah oui, ils sont pas bons là ?
Il y en a deux.
Ah, quand même.
Surtout un qui est magnifique.
Ah, quand même alors !
Il y en a un qui est génial, c'est vrai.
Lequel ? Lequel ?
Monsieur Lazare.
Ah, Monsieur Lazare.
Sublime.
Avec Fellag.
Il est formidable. C'est un grand film, un grand acteur, un grand sujet. J'étais emballée dès le début, me voilà en train de pleurnicher devant ce monsieur Lazare qui fuit l'Algérie, où il a été menacé de mort et sa famille a été tuée. Il se réfugie au Canada et il remplace au pied levé un professeur canadien qui n'est pas là. Et les enfants, ils sont formidables, ils ont bien choisi. Malheureusement, les parents sont pas aussi formidables que les enfants. Donc ça tourne pas aussi bien parce qu'il n'a pas de papier. Et les parents vont le dénoncer parce qu'il est trop libre, c'est un esprit libre. C'est juste magnifique, moi j'en peux plus. J'oublierai jamais Monsieur Lazare.
Isabelle Motreau a l'air d'accord.
Ah oui, tout à fait. Ce qui est fort dans ce film de Falardeau, c'est que justement, il aborde des sujets sur le deuil. Parce que en fait, si Monsieur Lazare est là, c'est parce que la prof précédente s'est suicidée dans sa classe.
Ah oui, quand même.
Et donc, du coup, la directrice a accepté ce mec qu'elle aurait pas accepté dans d'autres circonstances. Et alors on parle de deuil, on parle de la langue française aussi beaucoup, ça se passe au Québec. On parle de plein de choses qui sont de l'ordre du sentiment. On pourrait tomber dans le sentimentalisme et jamais, jamais. Ça reste vraiment toujours quelque chose une émotion digne et élégante. Voilà, merci.
Tant mieux.
C'est formidable.
Ah ouais, ouais.
Monsieur Lazare, Killer Joe avec Matthew McConaughey. Ah. Qui, d'ailleurs, aurait pu être vendeur chez Abercrombie.
Ah oui.
Eh bien, dis donc, là, il a plongé notre Friedkin, qui a été le mari de Jeanne Moreau. Il a plongé dans le gore, mais c'est dégueulasse.
William Friedkin, c'est le réalisateur du film Killer Joe.
C'est le réalisateur du film.
Il est l'exorciste aussi. Hein.
Et alors là, oui. Killer Joe, c'est pas bien.
Ah, moi, j'ai détesté. J'ai pas pu supporter. C'est méchant. C'est vraiment le mal montré salement. Il y a une bonne femme pour montrer qu'elle est vicieuse. Elle se balade le zizi à l'air. Et le héros, il est à la fois shérif et à la fois assassin. Et c'est vraiment mon.
Les critiques sont très très bonnes pour Matthew McConaughey en tout cas.
Ah, moi j'ai adoré ce film, Killer Joe.
Ah oui,
chef-d'œuvre.
Il est formidable. Moi j'aime beaucoup Friedkin déjà au départ, mais alors là je trouve qu'il a retrouvé une espèce de pêche, il y a une espèce d'énergie dans ce film. D'abord, Matthew McConaughey, il est vraiment extraordinaire, c'est-à-dire que c'est le méchant avec tout ce que le méchant peut avoir de fascinant quand un méchant est réussi. C'est-à-dire qu'on est complètement sous sa coupe depuis le début. Il est très beau, mais il a surtout une façon de parler, de se mouvoir qui est fascinante. Oui, je trouve pas d'autres mots. Et l'histoire, c'est une histoire un peu minable. Hein. C'est un petit vendeur, un petit dealer qui a besoin de récupérer du fric, qui engage un tueur à gages, donc lui, et qui parce qu'il n'a pas le fric pour le payer d'avance, lui donne sa sœur en caution. mission, quoi.
Ah oui.
Et puis ça va très très mal tourner. Et c'est absolument génial.
Killer Joe, Yann Moix, vous l'avez vu ?
C'est un chef-d'œuvre absolu, comme tous les films de Friedkin, il n'a jamais fait un film médiocre.
Cherchez Hortense, un film français, le titre l'indique, réalisé par Pascal Bonitzer, avec Jean-Pierre Bacri et Christine Scott-Thomas. Isabelle Carré aussi, important.
C'est bon chic, bon genre, c'est bien français, c'est des gens chics. Alors il y a Jean-Pierre Bacri qui est un homme important et qui joue très bien maintenant, dit-on dans les critiques. Moi je trouve qu'il joue comme d'habitude, c'est-à-dire il fait la gueule. Et donc il y a une fille, une fille géniale, alors elle, c'est Isabelle Carré, qui est une jeune fille serbe. Elle s'adresse à lui, qui est un homme important, je ne sais pas pourquoi, mais il est important, et elle s'adresse à lui pour avoir des papiers. Et lui essaie de demander ce service à son père, qui est très snob aussi, c'est snob. Et puis, évidemment, il n'ose pas demander à son père qu'il le méprise. C'est chiant. Oh là là.
Cherchez Hortense, elle n'a pas aimé Monique, vous, oui ?
Moi, j'ai mieux aimé que Monique. Je trouve ça quand même...
Mieux aimé, ça ne veut pas dire non plus...
C'est un rythme un peu mou, un peu lent, un peu... Voilà. Bon. Malgré tout, je trouve qu'il y a des belles choses, des belles scènes sur la lâcheté, justement, parce qu'il doit demander quelque chose à son père et il n'y arrive pas. C'est plus fort que lui. Il ne peut pas arriver à demander un truc à son père, qui est Claude Rich, et qui est quand même formidable. Et voilà, je trouve que sur la filiation, sur la lâcheté, sur le rapport au père, c'est quand même un beau film.
Wong, un film de Quentin Dupieux qui avait fait Steak aussi pour ceux qui ont...
Ouais. Pour ceux qui quoi ?
Pour ceux qui aiment les films en...
pour ceux qui
avec un
steak.
Titre en un mot.
Pour ceux qui sont un peu maso, on va dire. Alors je ne sais pas si celui-là est réussi aussi.
J'avais adoré Rubber, l'histoire d'un groupe nœud, super méchant. Mais là, il a fait un gros rien du tout.
C'est avec Eric Judor, d'Eric et Ramsey.
Et donc, il nappe un chien pour faire voir si son patron aurait du chagrin quand il le... Oh, serait content plutôt, quand il le retrouverait. Il rencontre que des gens idiots. C'est dire que ce film est bête, c'est très flatteur.
Bon. Oh, elle est en forme.
Je crois qu'on va donc retenir, avant tout, puisque là, vous êtes d'accord toutes les deux. Monsieur Lazare,
peut
y aller.
Vous nous avez donné envie.
C'est génial. S'il y a un film à voir, c'est celui-là.
Killer Joe, parce que Yann Moix et Isabelle Motreau sont d'accord pour dire ça relève du chef-d'œuvre. Même si Monique, elle, trouve ça un peu trop dur, un peu trop violent. Mais... quand même, ça reste apparemment un très bon film. Et puis, pourquoi pas, pour ceux qui veulent encourager le cinéma français, et on en fait partie.
Oh oui, il y a des bons.
Chercher Hortense, mais on n'est pas totalement obligé non plus. On peut.
On n'est jamais obligé de rien.
Et le film avec Jessica Biel, il n'est pas bien ?
Avec le cinéma.
Le film, pardon ?
C'est vachement bien, Un secret ou non. Le secret.
On ne peut pas en parler de ce film.
Pourquoi ?
C'est un film RTL.
C'est un secret.
Mais non, on déconne. Dans un instant, l'invité d'honneur.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Bonsoir, invité d'honneur. Je crois savoir que c'est la première fois que vous venez, que vous venez dans notre loge d'honneur.
Oui.
Votre voix est déformée. Mes camarades vont vous poser des tas de questions pour tenter de vous identifier. C'est parti.
Je pense que vous êtes une femme.
Oui.
Est-ce que vous préférez que nous vous appelions madame ou... Enfin, est-ce que vous préférez...
Ou Robert.
Est-ce que vous préférez qu'on vous appelle madame ou par votre prénom en règle générale ?
On est
égal. Oui, ça dépend
qui. Ceux qui vous connaissent vous appellent pas madame et ceux qui vous connaissent, enfin, inversement.
Oui, Gérard, votre question est un peu bête.
Pas du tout. Tu demanderais ça à un Américain ou un Anglais, il dirait bon, pas de problème, vous m'appelez pas mon prénom. Ça, oui. Ça traduit quelqu'un qui n'est pas non plus si. Vous voyez ?
C'est
familier.
Si quoi ?
Si. Ben, c'est pas une. Il faut faire gaffe à cette personne. Faut pas lui parler n'importe comment.
Par le meilleur.
Non, je sais ce que je dis.
Parle-moi meilleur, comme dirait Olivier de Kersauzon.
Il faut faire attention.
Donc, invité que vous êtes entré à Europe 1, on a pas, peut-être pas hurlé votre prénom, mais on vous a dit tiens, et hop, et on a dit votre prénom.
Je ne sais pas.
Est-ce que les gens vous arrêtent dans la rue ?
En dehors de la police.
À part dans les bouchons, évidemment.
ça arrive qu'on vous reconnaisse dans la rue, j'imagine.
Oui, ça arrive, donc c'est pas non plus si fréquent que ça.
Pas toujours.
Pas toujours. Voilà,
pas toujours.
Ouais. Ça veut dire que votre nom et votre patronyme est plus connu que votre visage ?
Peut-être.
Oui,
on peut dire oui.
On peut dire oui, mais de moins en moins.
Ah, vous êtes donc de plus en plus connu.
Voilà.
Mais on ne vous voit pas, on ne vous voit pas souvent à la télévision.
Ça dépend.
Est-ce que les gens qui vous reconnaissent dans la rue sont plutôt jeunes ou plutôt âgés ?
De tous les âges.
Tous les âges.
Est-ce que votre physique a joué un rôle important dans votre carrière ?
Je ne pense pas.
Tu vois ça dans la crèche sur l'égalité des sexes, t'aurais pas le droit de poser cette question.
Voici une première chanson qui va être votre premier indice pour vous mettre sur une piste et renouveler vos questions.
Quand la nuit tombe, quand elle balance comme ça, collée contre moi, quand ses parfums sombres tournent autour de nous, on se mélange, c'est tout.
Vous avez reconnu la voix de
Lavillier,
Bernard Lavillier,
reconnu,
mais c'est
suite.
Évidemment le titre de cette chanson qui est un fort indice pour vous mettre sur la piste de notre invité.
Oui, est-ce que choisi son plus grand tube justement pour qu'on l'identifie très bien.
Non, parce que son plus grand tube n'aurait pas été un indice.
Est-ce que vous devez votre notoriété à Laurent Ruquier?
Peut-être.
Donc vous avez un rapport avec
très gentil.
Oui.
D'accord.
Est-ce que vous avez une activité récurrente, c'est-à-dire par exemple, est-ce que tous les
faites
ans vous
le
faites
le ménage
un film,
tous les jours,
tous les ans vous publiez un livre. Est-ce qu'il y a quelque chose qui se répète comme ça à intervalles assez réguliers?
Un deuxième indice pour vous aider. Est-ce que vous, vous reconnaissez cette musique, invité?
Pas du tout.
Pas du tout.
Très bien, donc voilà un indice qui va nous aider. Alors, moi je trouve que ça évoque une série policière années 80.
Ça évoque une série policière, on peut dire policière, années 80, non. Mais vous êtes sur
plus
la
récent.
Piste. Dites, c'est pas à moi de répondre.
C'est dommage.
Est-ce que, lorsque vous étiez plus jeune, vous exerciez exactement le même métier qu'aujourd'hui?
Comme elles sont bizarres tes questions en ce moment.
Mais c'est marrant, je sais pas. C'est...
Mais on sait pas. Non, mais
surtout, elles ont vraiment l'avantage de ne pas du tout faire avancer
mais c'est pas
nos,
vrai.
Nos recherches.
C'est
quoi.
Pas vrai.
Ça qui est bien, quoi.
Il a raison, Jean-Marie.
Pas du tout.
Alors,
est-ce que quelqu'un d'autre dans votre famille exerce le même métier?
Pas exactement.
Pas exactement.
Ah, est-ce qu'on connaît votre compagnon
Peut-être.
On peut répondre oui, je pense.
D'accord.
Oui, on peut. En tout cas, vous, autour de la table, oui.
Oui, nous le connaissons.
Oui.
Est-ce que vous avez le même nom? Vous êtes marié ou est-ce que c'est pas le même nom?
Je suis mariée.
Mais ce n'est pas le même
mais
nom.
Mais c'est pas le même nom.
Une autre musique. Autant vous dire que ce sont des indices un peu lointains au départ.
Ah bah j'essaie... Attends, on avait compris.
C'est pas le générique de Mardi Cinéma, ça?
Non.
La brigade du tigre.
Non plus.
C'est Borsalino.
C'est Borsalino. Ah oui, bravo Isabelle Motreau. Mais... Réfléchissez à vos questions. On revient dans à peine deux minutes.
Europe 1, on va se gêner.
Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur.
Et quel que soit l'indice, pourri ou pas, comme vous dites, c'est toujours agréable d'entendre cette musique.
Ouais, mais vous avez votre SVLR, le sourire vicieux de Laurent Ruquier.
Est-ce que vous comprenez l'indice, invité?
Non.
Non.
Donc,
je vous expliquerai alors tout à l'heure.
Est-ce que vous portez un chapeau?
Non.
À qui vous pensiez?
Bah, à Borsalino.
Est-ce que si vous étiez à ma place, vous vous trouveriez?
J'ai pas bien compris.
Bah vous êtes difficile à trouver.
Est-ce que vous avez un rapport avec Alain Delon ou Jean-Paul Belmondo?
Pas du tout.
Est-ce que vous qualifieriez d'artiste?
Non.
Vous n'avez pas de profession artistique?
De productrice?
En quelque sorte.
Voulez-vous un indice de plus? Allez.
Oui.
Je tiens à vous dire que Gérard Miller a déjà identifié notre invité.
On dit que mes questions ne permettent pas de trouver. Eh bien, je suis désolé, mes questions m'ont permis de trouver.
Vous ne dites rien pour l'instant, Gérard.
Je ne
dis plus
rien et je ne
suis pas mécontent.
Est-ce que vous avez un rapport avec la cuisine ou l'art culinaire?
Pas du tout.
Okay. Est-ce je pense que vous... à personne en particulier. Hein,
est-ce que donc on sait que vous n'êtes pas vraiment une artiste, mais quand même, est-ce que vous êtes une femme politique ?
Pas du tout.
Yann Moix, Jean-Marie Bigard.
Ah, rien.
Alors, est-ce que vous avez compris l'indice précédent, vous ?
Peut-être.
Celui-ci devrait mieux vous aider. La folie pas du tout. Ah, Jean-Marie Bigard, c'est un exploit, vient d'identifier notre invité.
Ouais.
Ça n'arrive jamais.
Si, il l'a déjà fait cette semaine.
Bah alors Jean-Marie, qu'est-ce qu'alors là vous allez me dire tout à l'heure, qu'est-ce qui vous a mis sur la piste
hein? Eh bien, je ne suis pas vraiment une artiste, mais je suis quand même dans voilà, je me suis dit, allez, pourquoi je ne mettrais pas ce nom?
Eh bravo Jean-Marie, alors, ils sont deux, Gérard Miller et Jean-Marie Bigard.
Est-ce que... Vous dites que vous n'êtes pas une artiste parce que, par exemple, vous présentez la météo.
Non.
Et je crois qu'il y a de moi que vous pouvez dire le nom que vous avez marqué sur le bout de papier.
Ben, c'est pas elle, alors.
Êtes-vous Daniela Lombroso ?
Pas du tout.
Bon, est-ce que vous présentez une émission de télé ?
Pas du tout.
Est-ce que votre mari est réalisateur ?
Oui.
Oui, bravo, Titoff.
Vous n'êtes pas comédienne.
Non,
sinon vous auriez dit « je suis une artiste ».
Voici un autre indice. Alors là, effectivement,
alors,
cette musique...
Voilà, ça c'est facile, vous êtes joueuse de tam-tam.
Je tiens à dire que pour l'instant, Gérard Miller, Titoff, Jean-Marie Bigard, qui m'a donné aussi un bout de papier, Isabelle Motreau, ont identifié notre invité. Seul Yann Moix et Caroline Diamant. Bon, Yann
c'est Moix, bizarre, c'est les plus intelligents qu'on
Yann Moix, c'est moins grave, je vais dire, hein, j'ai envie de dire. Mais Caroline, c'est
pourquoi
embêtant pour elle.
Ne dites pas que c'est une chanteuse avec laquelle j'ai travaillé.
Non, c'est quelqu'un avec qui vous avez travaillé. Ouais. Ça, et ça, vraiment, Caroline...
Et avec qui tu ne travailleras plus jamais.
Jamais plus.
C'est ça qui est moche.
Je pense qu'elle ne va pas vous le pardonner. Ah Caroline,
surtout qu'elle a quand même un caractère qui fait que ce genre de truc ne va pas passer.
Est-ce qu'elle a une déchirure au mollet ?
Êtes-vous Christine Bravo ?
Pas du tout.
Non, on t'a dit quelqu'un d'important.
De très, très important.
Est-ce que j'ai foutu le reste de ma carrière en l'air ?
Oui.
Ah, c'est moche.
Et puis ça va durer longtemps.
Ah ouais. Ah,
un petit indice pour vous, Caroline, encore.
Et moi, ben, après coup, je ne regarde pas.
Alors Caroline, allez-y, dites-le.
C'est Catherine Barma.
Catherine Barma est notre invitée d'honneur pour la première fois dans On va se gêner. Catherine Barma est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h. Bonjour maman.
Non,
je peux pas vous appeler maman. Alors,
non,
Catherine.
Je ne suis pas du tout votre mère.
Ah bon ?
Non.
Mais par contre, quel est l'artiste qui nous a planté au dernier moment ?
Mais c'est une très bonne question. J'aurais fait
ça
la
va,
même
Catherine
chose.
Ça,
très bien.
Tu as remarqué que je t'ai reconnu le premier.
Dès qu'elle
appelle du gain.
Il faut que vous me disiez comment et pourquoi.
Alors, d'abord, je trouvais que c'était quelqu'un qui répondait en étant mal à l'aise. Premier point. Oui. Je ne savais pas qui, mais c'est pas habituel. Si vous voulez pas que j'explique. Qui répondait en mal à l'aise. Ensuite, reconnu, pas reconnu, tous les âges. Donc, c'est manifestement pas quelqu'un qui, par exemple, fait des films dans telle ou telle direction. Parce qu'on le cible public ou bien des émissions. Donc, effectivement, j'ai cherché quelqu'un.
Oui. Et moi, j'ai pensé immédiatement à productrice.
Voilà, je cherchais dans cette veine-là. Après, il y a eu Borsalino, et j'ai associé sur le fait que son mari, M. Lefebvre, Le Fèvre a récemment fait un très bon film policier. Donc je me suis dit, tiens, c'est peut-être... Enfin voilà, j'ai progressé comme ça. Et toutes mes questions qui étaient...
Qui semblaient idiotes au départ.
Moi,
il était vraiment, je dois dire.
Non, mais j'étais...
Non, et après, dernière chose, quand j'ai posé la question, est-ce que vous avez exercé le même métier qu'au début, quand on est chanteuse, quand on est comédienne, souvent on commence comme ça, vous avez répondu non. Et c'est vrai que, si je ne me trompe, vous avez été script girl à la télévision.
Script girl. Alors, dans ta bouche, ça fait danseuse nue.
Et voilà, voilà comment je suis arrivé à marquer votre nom sur, sur un...
Script girl.
D'accord, on dit script girl.
Obligé de sourire.
Productrice Catherine Marmas, il y a eu de... On va revenir sur les indices. Il y a eu des tas de génériques, évidemment, d'émissions, forcément, parce que Catherine a produit de nombreuses émissions jusqu'à, évidemment, La nuit nous appartient. C'est le titre de la chanson de Bernard Lavillier. Et La nuit nous appartient, c'est aussi le titre de l'émission de Mustapha sur Énergie 12 que produit Catherine Barma, puisqu'elle produit aussi cette émission. Bon, un peu moins importante qu'on n'ait pas couché, mais quand même.
Beaucoup moins drôle, surtout.
Bon, c'est pas la chanson qu'ils ont choisie pour le générique, rassurez-moi.
Mustapha, vous êtes très fier de lui, Catherine
Barma.
Oui,
c'est vous qui l'avez découvert.
Non, mais quand même, il est doué.
Il mène très, très bien.
Ça passe quand, d'ailleurs, La nuit nous appartient ?
Le dimanche soir sur Énergie à 22h30.
Énergie 12, et c'est vrai que. Il est très doué.
Très doué.
Mustapha, il est ici parmi nous régulièrement, si on l'aime beaucoup. Le deuxième indice. Voilà, c'était un petit hommage à votre papa, Catherine Barma, puisque c'est la musique de Belphégor ou Le fantôme du Louvre.
Ah, j'étais pas loin.
Et c'est votre papa, Claude Barma, qui avait réalisé ce feuilleton.
Voilà.
Belphégor. Et la musique, vous ne la connaissiez pas ?
Non, je ne l'ai pas reconnue. J'étais très étonnée.
Belphégor. Borsalino, évidemment. Bravo Gérard Miller, puisque sur ce film, le mari de Catherine Barma, Philippe Lefebvre, était assistant réalisateur.
Oh là là.
Avant de devenir réalisateur lui-même. C'est vrai que les premiers indices étaient...
Oui, ah bon ? Ah bah oui, même l'invité ne les a pas trouvés, merci.
C'était un peu difficile. Il y a eu un premier indice de générique télé. Est-ce que vous le reconnaissez ?
Scoop à la une ?
Bravo, c'est Scoop à la une, Catherine Barma. Ça, c'était qui ? PPDA ou Ardisson
déjà ? Non,
c'est
la première émission de Thierry, c'est ce qu'il a fait connaître à la télé.
C'est la première émission de Thierry Ardisson. Combien d'émissions en tout avec Thierry Ardisson ?
Je ne sais pas combien, mais on va dire on a dû travailler 10 ans.
PPDA, lui, c'est justement sur le générique suivant.
Oui.
À la folie, pas du tout.
Oui, le dimanche après-midi, ce qui lui a permis de revenir à la télévision parce qu'il était un petit peu blacklisté et ensuite de partir sur TF1.
Le générique de Tout le monde en parle.
Elle a pris le tam-tam.
On l'a pas passé ?
Si, on l'a passé.
Tu dormais, mais oui.
Qu'est-ce qui vous a mis sur la piste de Catherine Barma, vous, Titoff ?
Pareil, un peu la même déduction. Je vais faire plus court que Gérard Miller, mais un peu la même déduction.
Thierry Ardisson, vous avez été un petit peu fâché pendant un temps, mais c'est fini. Il y a eu une grande réconciliation avec votre animateur. On peut dire que c'est votre animateur fétiche, quand même, Catherine Barma. Je dis ça pour me faire
battre. Elle n'a pas l'air au courant de la réconciliation.
C'est pas un animateur fétiche, c'est un animateur qui a marqué son époque, avec qui j'ai travaillé. J'en étais très contente. Et puis, la roue tourne, et maintenant, mon animateur fétiche, mais c'est vous. Enfin, si vous êtes encore d'accord.
Oh là là.
On ne sait pas ce qui peut se passer demain.
C'est vrai.
Regardez,
là, t'as bien 2-3 ans devant toi. Hein.
Vous vous engueulerez jamais tous les deux.
Non, mais c'est un métier. Hein.
Pourquoi on s'engueulera jamais ?
Parce que je connais vos caractères à tous les deux et je pense qu'il y a un respect mutuel.
C'est ça, ouais,
et que...
rattrape-toi, toi.
Non, pas du tout.
Mais on s'engueule quand même.
Ah, on s'engueule.
Non, c'est ce qui est ça. Non, mais il faut s'engueuler. C'est ce
mais
qui
vous ne ferez pas la gueule pendant des années comme avec
Thierry Ardisson.
Oui, mais ça vient du caractère de Laurent.
Thierry Ardisson, en tout cas, qui anime Salut les Terriens, on peut signaler, puisque c'est la reprise de toutes les émissions cette semaine, que samedi soir, Gaspard Proust fait ses débuts, Gaspard, dans Salut les Terriens, puisque c'est lui qui succède à Stéphane Guillon chez Thierry Ardisson dans Salut les Terriens. C'est la première de Gaspard. Je sais que l'enregistrement hier soir s'est très bien passé. C'était aussi notre premier enregistrement hier soir pour la nouvelle saison d'On n'est pas couché, Catherine Barma, mais on en reparle après la pub. Catherine Barma est notre invitée jusqu'à 18h. Alors c'est vrai qu'au début... Au début de l'interview, vous disiez, ben oui, les gens commencent... Parce qu'en fait, c'est l'émission On ne demande qu'à en rire qui a fait d'un seul coup encore plus connaître, peut-être même carrément connaître votre visage, parce que vous étiez sauf la caricature de Florence Foresti,
oui, dans
On a tout essayé. Votre visage était quasi inconnu, on peut le dire, des téléspectateurs, Catherine.
Complètement inconnu.
Et là, depuis que vous êtes dans le jury, évidemment, maintenant, les gens vous reconnaissent dans la rue.
Depuis que vous m'avez mise dans le jury. Alors, quand même, il faut le dire.
Et ça a changé, ça a changé quoi pour vous ?
Pas grand-chose. Les gens sont très gentils, mais bon, ils viennent me voir, mais ils parlent de l'émission d'une manière très positive. Ils parlent surtout des humoristes, et c'est ça qui est important. Alors, c'est vrai que ça fait plaisir quand vous produisez un programme et que les gens viennent vous en parler, mais me parler de moi, ça n'a pas d'intérêt.
Mais Catherine, il faut le dire, ne voulait absolument pas. Voilà. Ça, je dis, c'est pas une coquetterie de sa part. Il a fallu vraiment, mais alors que j'insiste pendant des mois, pour que Catherine Barma fasse partie du jury, parce que j'étais sûr, et là j'aimerais que vous en parliez vous, que Catherine serait tout de suite identifiée, identifiante et identifiable, parce que c'est un vrai personnage, Catherine Barma. Caroline.
Ah, écoutez, elle était timide un tout petit peu dans les premières émissions, mais bon, on avait déjà un aperçu avec le personnage de Florence Foresti, mais elle est culte maintenant dans le jury. C'est-à-dire,
mais elle fait
les
peur,
chutes qu'elle
moi,
comprend
Catherine...
pas. On sait avant que le sketch commence.
Ouais.
On sait exactement ce qu'elle va pas comprendre. Vous ne devez pas du tout être une bonne joueuse de poker.
Très
tout
mauvais.
Se lit sur votre visage. À la seconde, ça j'aime pas. Oh, il a invité une vedette, je suis contente dans le sketch. Machin. On voit quand la productrice arrive, qu'elle laisse la place au jury. Non, c'est honnêtement, c'est culte. Et alors, j'ai pas bien compris la chute. C'est voilà, ça fait partie des phrases de référence.
Jean-Marie
de
Bigard.
Moi, elle me fait peur. Elle-même, à la place, quand je regarde, à la place des artistes, je me dis, mon Dieu. Ça me ferait peur parce que justement elle sait pas trop mentir, on sait qu'elle va être un peu tranchante, les autres sont souvent ils arrondissent un peu les angles et tout, que ce soit Benguigui ou Jean-Luc Moreau ou les autres ou
Jean-Benguigui arrondir les angles
un petit peu quand même, un petit poil, mais Métayer aussi que j'adore, mais Catherine c'est un serpent, hein, là, le sang froid, et donc on sait qu'elle sera sans pitié.
Gérard Miller, vous qui avez travaillé aussi avec Catherine Barma.
Oui, mais je dois dire que c'est ce qui est très étonnant chez Catherine, c'est à la fois la capacité, l'intelligence, etc. Et en même temps, le nombre de choses qu'elle ne comprend pas. C'est vrai. Non, mais c'est d'avoir fait une carrière aussi brillante, d'avoir vraiment
sans
dirigé.
Avoir rien compris.
Mais en ayant toute une série de zones, parfois d'ombre.
Je suis milliardaire, j'ai rien compris.
Non,
je sais
non,
pas comment c'est arrivé.
Si Laurent me permet de répondre, j'ai une réponse à ça. Vous dites, elle ne comprend pas tout ça, mais parce que moi, je me mets souvent à la place du téléspectateur. Ouais. Et il faut que ça soit clair et que les gens, sur quelque chose qui dure 3 minutes, c'est pas un spectacle d'une heure et demie, qu'on aille directement à évidemment ce que veut exprimer exactement l'artiste qui est sur le plateau.
Oui, mais parfois il y a des zones, on a l'impression vraiment vous n'avez pas accès.
De toute façon, maintenant, il y a Daniel Evnoux qui me remplace sur Je n'ai pas compris.
Et vous, Isabelle Motreau, qui avez travaillé avec Catherine.
Je suis complètement d'accord avec Caroline sur le côté culte, ça c'est clair. Mais alors, justement, pour avoir travaillé avec Catherine, je sais à quel point elle n'avait pas envie de faire d'antenne. Donc j'aimerais savoir qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous avez cédé.
Parce qu'elle s'est donné un salaire.
C'est mystérieux quand même. Alors, longtemps j'ai pensé ça.
Alors,
non, je ne pense pas. C'est parce que, bon, quand on a démarré cette émission avec Laurent, c'est vrai qu'au démarrage, elle a eu des difficultés et ça marchait plus ou moins bien. Et Laurent voulait absolument renouveler le jury. Et à un moment donné, il a décidé de le renouveler. Ça faisait quand même 4-5 mois qu'on en parlait. Puis ça ne marchait pas très, très bien. Et il a eu cette phrase au bout de 4-5 mois. « Bon, bah, t'as qu'à essayer, c'est pour une semaine. Après, on s'arrête. » Ça m'a fait marrer. Et ce jour-là, j'ai cédé.
Ah, d'accord. C'était pour une semaine.
Titoff, vous connaissez Catherine. Moi, pour avoir travaillé avec elle du temps de Tout le monde en parle.
Exactement. Moi, je vais parler plus de la productrice. Et c'est des super souvenirs parce que c'était un monde complètement nouveau pour moi. J'étais un des premiers snipers. J'alternais avec Laurent Baffy. Et c'est vraiment pour moi... l'envers du décor, l'arrivée, l'embrasser. Alors, des fois, elle était cassante, toujours dans le speed. Et c'est, moi, je trouve le côté positif parce que souvent, les gens n'ont pas l'envers du décor, on va dire, voilà, les coulisses de la télévision. Et moi, j'en garde un super souvenir parce que c'était dans le speed, c'était beaucoup de responsabilités. C'était une émission énorme parce qu'il y avait toujours des invités.
Caché.
Politique caché. Et moi, je garde un super souvenir de l'autre côté
chiante,
de la télévision.
Par exemple.
Non, avec moi, non. En plus, c'est vrai, Catherine.
Non, Catherine, on a travaillé pendant 10 ans ou même plus. Elle est formidable. Et en même temps, c'est vrai, il faut bien dire aux gens, t'as un côté chiant par
mais
moment.
Mais toi aussi, t'es chiant aussi, c'est normal.
Non, mais.
On est chiant avec les chiants.
Ça commençait bien, et puis Ça va mal finir cette histoire.
Un mot sur le numéro d'On n'est pas couché qu'on verra demain soir. C'est la reprise, la nouvelle saison, la 7e saison d'On n'est pas couché. Et oui, 7e saison d'On n'est pas couché avec un nouveau duo, donc Natacha Polony et Aymeric Caron. Et on peut dire qu'on est très content de notre petit nouveau. Hein.
Ah, il a été très bien. J'ai beaucoup aimé hier soir quand vous avez dit après deux hommes, deux femmes, enfin. Un couple, mixte. Un homme, une femme, mixte, c'était très drôle. Et c'est vrai qu'il fonctionne très bien. Lui, il est plutôt beau garçon, ce qui ne gâche rien. Et vraiment, il dit ce qu'il a à dire.
On a un petit hommage à Michel Pollack aussi en début d'émission, puisqu'évidemment, Michel Pollack nous a quittés pendant l'été. C'est lui qui avait démarré On n'est pas couché en duo avec Éric Zemmour, la toute première année. Merci Catherine Barma d'être passée nous voir aujourd'hui. Et bravo pour toutes ces émissions. C'est la première fois que Catherine Barma était l'invitée mystère. Bon week-end sur Europe 1.